Radio, c'est Marceau. Marceau le midi.
11h33, c'est une belle journée sur Québec. En plus, le Canadien qui a gagné hier. Tu écoutais la game, Pascal?
Oh que non, j'étais occupé à faire d'autres choses, mais...
Gros match de 4 points pour le Canadien. Les Red Wings de Détroit seront au Centre Bell pour les prochains jours. Le Lightning qui a donné un bon coup de main au CH hier avec une victoire de 5-1 sur les Rangers de New York. Ça va bien? Ça va bien?
Ça t'en donne-tu? Ben, toi, parce que tu le perds au gré des matchs, là, ton engouement pour le Canadien, mais tu le retrouves après. Est-ce que là, tu es sur une bonne voie de triper encore pour les derniers matchs qui te restent? En même temps, ça va durer jusqu'en juillet, le Sapristi de hockey.
Ouais, mais en fait, moi, je veux juste que le Canadien fasse les séries. C'est comme ce soir, 19h, là, c'est les Red Wings de Détroit qui affrontent le Canadien. Le Canadien qui a joué 2 gros matchs en fin de semaine. Hier, c'était une soirée très triste, fait que j'ai joué sur Xbox.
OK. À NHL?
Avec mon Canadien. Ben oui, bien sûr, j'ai gagné contre les Panthers.
T'as-tu la dernière version?
Non, j'ai 2024.
Il sort-tu vraiment encore tout le temps?
À tous les années.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Pis, c'est les joueurs qui changent, c'est quoi?
C'est les joueurs. Là. C'est comme moi, je joue à opposition en ligne. Là. Fait que des fois, je pogne des équipes qui ont encore d'anciens joueurs. Tu sais, comme Pat Laine, il n'est pas encore chez le Canadien en 2024. Là.
OK.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Donc, peux-tu jouer avec ton 2024 avec quelqu'un qui a 2025, mettons?
Oui.
Oui,
je pense que
okay.
Oui. Ce soir, Canadien qui affronte les Red Wings de Détroit. Puis c'est un gros match de 4 points pour le Canadien ce soir. Fait que non, ça va être une belle soirée. Puis en plus, je suis seul à la maison. Fait que là, ça va être relax.
T'as bien l'air au ralenti.
Pourquoi je suis
au ralenti? T'es-tu zen? T'as-tu fait du yoga ce matin? Audrey, t'as-tu remis à ta place comme...
C'est
faux?
Audrey qui me relaxe. Elle a commencé sa journée en me disant « Yann va être en retard.
Okay. »
Parce que je m'en vais...
Attention, elle est là, puis elle te regarde.
Dans des étriers, là.
Ah, pauvre petite.
Elle avait okay. Ça un matin.
Tu fais aucunement pitié, là. Vraiment,
là,
elle peut être en retard.
Tu peux-tu imprimer mes feuilles? Fait que là, ça m'a fait faire une activité que je fais pas d'habitude.
OK.
Puis, ah, ça doit être ça. J'ai imprimé des feuilles.
Bon, t'as dit, t'as eu une tâche de plus.
Ça fait-tu mal quand vous allez là chez le médecin?
Ça dépend, parce que quand t'es stressé, quand t'es gêné, mettons, puis qu'elle te met les deux pieds sur l'étrier, elle t'approche, puis elle dit « relaxez, mademoiselle
ouais. ».
Ça se peut que... c'est pas une activité plaisante, là.
Mm-hmm.
Ça se peut que ça soit un peu... Mais quand tu es plus loin, puis c'est pas un test gynécologique normal, puis ils s'en vont jouer dans l'utérus, puis ils te prennent un genre de... C'est tout ça que t'avais un matin? Ils te prennent un genre d'échantillon de ce que t'as dans l'utérus, là.
Mais voyons donc, toi.
Ouais, ils te l'arrachent, là.
Hein?
Puis, tu sais, il y a pas beaucoup d'études sur tout ce qui est le concept de la femme, la douleur de la femme. C'est à froid, mais t'arraches une partie de l'utérus, Yannick.
Ouais,
t'es supposé être bien, là, puis que c'est comme supposé être une machine à saucisses.
Moi, ce matin, c'était le fameux pap test, par exemple.
Ouais.
Ça, on doit tout y passer aux 2-3 ans.
Ouais.
C'est au niveau du col de l'utérus, effectivement, mais c'était avec une petite brosse à dents, Yann. On va brosser ton col. Fait qu'imagine que je vais brosser un organe intérieur, tu le sens dans ton ventre, il est fortement désagréable.
Ouais.
Puis on va gratter les bords aussi pour aller voir s'il y a des cellules cancéreuses. Fait que nous, on se doit de faire ça à peu près aux 2-3 ans.
Aux 2-3 ans.
Exactement. Mais le bout, je sais pas toi, Pascal, là, avec les années, je pense que maintenant, t'es plus gêné parce que là, tu commences à être habitué de juste t'écarter puis monter.
Mais c'est que ma gynécologue, c'est la même depuis toujours. Mais celle, mettons, pour les pap tests puis tout ça, c'est pas nécessairement toujours les mêmes. J'en ai une, puis je la salue. Je sais que c'est une auditrice de radio, puis c'est toujours gênant quand elle te demande pour relaxer qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Oh.
Tu veux pas répondre.
Moi, je dis que je travaille en communication.
Moi, je dis je suis Marie-Pierre, je suis infirmière. Mais là, c'est parce qu'on s'appelle, on s'entend que je suis en santé au moment où elle me joue dedans. Fait que c'est très bien, je suis pas infirmière, puis je m'appelle pas Marie-Pierre. À mon dossier, c'est à la table. Mais c'est le bout le plus gênant. Parce que, tu sais, des gens qui n'ont pas une job comme la nôtre, ils vont répondre, ça va peut-être les relaxer, ils vont parler de leur quotidien. Nous autres, il n'y a pas un moment où tu veux que ton visage et ton métier soient associés à le fait qu'elle a sa face dans toi.
Tu parles le soir? Quand il arrive à la maison, là, j'ai rencontré Denis Gravel.
Oui. C'est sûr que oui.
Ils ont-tu le droit?
Ben,
à quel propos, tu sais?
Normalement, ils sont supposés de se la fermer.
Mais c'est sûr que oui.
Mais tu sais, t'es médecin,
ouais.
Pascal, t'as un crush sur Tom Cruise. Pas Tom Cruise, mais Brad Pitt.
Ouais.
Puis là, Brad Pitt arrive dans ta clinique. T'arrives au souper le soir avec les filles, c'est sûr que t'en jases.
Ben, ça dépend. S'il est venu pour une grande syphilis grimpante, ça m'intéresse un peu moins, finalement.
Non, mais c'est sûr que t'en parles.
Mais c'est sûr que tu dis qu'il est passé à ton bureau, tu sais. Ouais. Mais le plus inconfortable, en tout cas pour moi maintenant, c'est pas tant les étriers, parce que Yann, donne-toi l'image, OK? Là, t'arrives, là.
T'es couché sur une grande table froide.
Ouais, sur une grande table froide, tu t'assis. Et là, elle dit, mets tes fesses au bout comme si t'étais sur le bord de tomber. Puis que t'es bien au bout. Et là, elle sort les étriers. Schlac! tu mets tes deux pieds, tu comprends? Et là, t'as comme une espèce de petite couverte en tissu qui te recouvre le temps qu'elle prépare ses instruments.
Avez-vous le droit de prendre un verre, les deux, avant?
Non.
Moi, j'appellerais ça une débarbouillette, là.
Ouais, souvent, pas large, là. Il te propose, si tu veux, justement, te nettoyer.
Te nettoyer,
t'sais, pour te nettoyer. Puis après ça, ben là, le spéculum, sais-tu ce que c'est, ça?
OK, mais t'as pas encore pris un verre avec pour apprendre à
non,
connaître,
non, non, mettons. du tout. C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les informations de base pour ton dossier, après ça, c'est...
Hey, moi, c'est la dernière information que je vais donner, là.
Ben c'est ça.
Je donne même pas mon nom, là.
Mais non, mais là, t'as pas le choix, là.
Fais ce que t'as à faire.
La fois qu'ils m'ont arraché de quoi à l'intérieur, là, elle me dit avant... Premièrement, je suis stressée, je sais pas ce que je vais vivre, je suis bien écartée. Puis elle me dit, il y a 2-3 stagiaires qui seraient là pour venir voir.
Non.
C'est pas
je suis vraiment désolée, mais j'ai pas donné mon corps à la science cette
fois-là.
Avancez
vos fesses, madame. Fait que là, t'es comme couchée, puis tu sautes pour avancer le plus possible près d'elle.
C'est tough être une fille, pareil.
Ben
vous avez tellement de problématiques que nous autres, on n'a pas, là.
Puis c'est weird ce que je vais te dire, là, parce que vous pouvez pas le savoir et vous en rendre compte. Mais tu sais, mettons, quand on fait l'amour, là, il y a quelque chose qui rentre. Tu comprends, le trou, il est bouché.
Okay? Vous avez un pénis.
Oui. Mon point est que
elle avoir d'autres choses, parce qu'elle dit, il y a quelque chose.
Peu importe ce qui rentre, il y a quelque chose qui rentre, OK? Mais quand tu vas chez le gynécologue comme femme, il y a le fameux spéculum qui est comme, imaginez, une paire de ciseaux avec une saucisse au bout, là.
Un genre de bec de canard.
Un bec de canard. Puis ça, c'est complètement... Le but, c'est qu'on rentre ça et on ouvre le ciseau. Fait que là, elle, tu comprends, elle a affaire à ton intérieur. Là, il n'y a rien qui bouche. Le trou, c'est de l'air. Tu comprends? Cet air-là, là. Exact. Exactement. Et là, fait ce qu'elle a à faire, puis elle referme ça, schlac. Et là, t'as l'air qui reste pogné en dedans, tu comprends?
Oh, OK.
Rien qui bouche, là. C'est particulier.
Ben, j'en doute pas.
Quelqu'un qui dit la vasectomie, ça ressemble un peu à vous, les filles, quand on a le visage à quelques pouces de vous et que ce n'est pas consentant nécessairement pour le plaisir sexuel. Et si on dit bonjour avec la poche des mains.
Mais non, mais c'est littéralement
c'est
ça.
C'est gênant.
Mais ça, ils sont habitués, là, ils font la conversation, là. Je veux dire, allez, les ciseaux ouverts, toi, t'es bien, là, à nu, là.
C'est un lundi.
Oui, c'est un lundi, puis à tout ça. Et fait, moi, matin, la conversation, c'est-tu, c'était quoi? L'hiver est revenu, hein?
Oui, il essaie de t'amener ailleurs. Il essaie de faire du small talk.
C'est des conversations d'ascenseur.
Moi, je suis pas bonne.
Ouais, c'est ça. Il essaie juste de te faire penser à d'autres choses. Mais c'est vrai, moi, la vasectomie, je sais pas, là, ça va être quand. Je pense que ça sera jamais. Ça me fait peur épouvantable.
Ben là, voyons, 30 secondes, puis une petite odeur de brûlé, c'est fini.
Ça sent le cochon brûlé.
Oui. Ouais.
Comme quand on se fait faire au laser pour vous autres, là.
Hey, mais ça, c'est souffrant.
Oui.
Fais-le pour toi, Audrey.
Oui, en premier.
Ouais, ça, c'est les belles paroles.
Non, pas vrai.
Mm-hmm.
Il n'y a rien de plus pratique que ça, là, honnêtement.
C'est très pratique. Oui. Souvent, c'est parce que tu veux pas gêner. Tu comprends? Des fois, les filles, quand on est célibataire, on hiberne.
Ouais.
Fait que l'hiver, on va laisser aller un peu parce que de toute manière, on est bien habillé, tu comprends, puis on s'en fiche.
Mais là, je trouve que c'est quand même une généralité, là, ce qui est en train de se passer.
Ben oui, c'est une généralité, sauf que, ben, en tout cas, moi, mon entourage, beaucoup de mes chums de filles, ils ont la blague. Ben, ils hibernent pas à tous les niveaux, par exemple. Là. Je vais dire les jambes, surtout.
C'est ça en ondes, nous
L'hiver...
Hey, je pense qu'il faut que j'aille manger, parce que là, moi, j'ai faim, puis
C'est parce que les jambes sont pas à découvert, tu sais, t'es pas dans les
mais
grandes
jambes. Mais c'est ça, dis-moi pas que tu te fais les jambes à l'année, à la perfection constamment, à moins que tu sois très active
ben, moi,
dans
c'est
ta vie personnelle.
Laser,
ouais, okay. Mais moi, mettons, quand j'étais pas laser...
Mais l'hiver, c'est un peu plus négligé.
Ben, quand t'es célibataire, puis que tu... Non, c'est ça, là. C'est pour ça que je disais les jambes. Quand t'es célibataire, bon, c'est là-dessus
que
je m'en vais.
J'ai étudié 3 ans au cégep, j'ai fait l'université. Pour faire ce job-là.
Ouais.
C'est on n'a pas besoin de ça. Finalement.
On dit que c'est pas grand-chose la vasectomie, puis c'est vrai que les gars, c'est moins compliqué parce que les filles, se faire la grande opération et tout ça, ça a l'air que c'est tough.
Sérieux, là. Un petit. Mais pour vrai, puis même la pilule, on commence à en jaser beaucoup, mais qu'on commence à la prendre quand on est jeune, souvent c'est pour rétablir ton cycle.
Ouais.
Si t'es anormalement réglé ou encore, il y en a qui vont le prendre pour l'acné, des trucs comme ça. Mais la pilule, là, les dommages hormonaux là-dessus, là, ce que ça, en tout cas, personnellement, là, puis quand je l'ai arrêté, ça n'a pas été un 6 mois facile sur l'incompréhension de ta personne, sur tout ce que tu vis émotivement, émotionnellement. C'est vraiment particulier. Fait que je me dis, oui, un gars, si tu es en couple, qui va se faire vasectomiser, est-ce que
c'est
je veux dire...
Yann.
C'est ouais. C'est une shot, c'est quelques secondes, puis...
Tu penses à autre chose.
Puis toi, tu peux te reconnecter. La femme ne peut pas virer de bord si jamais ça va faire la grande opération.
Non, le but, c'est pas de se reconnecter. Là. C'est juste qu'on n'est pas habitué comme vous autres êtes habitués depuis votre jeunesse à avoir constamment chaque année une vérification de tout ça. Puis, tu sais, comme tu me dis, aux 2-3 ans, qui prennent la genre de brosse à dents, puis qu'ils vont
creuser arrête, ça. Arrête, t'en parles, puis j'ai
encore des sensations. Nous autres, on n'a pas ça. Fait que te ramasser à 50 ans pour ça, ça peut être stressant. J'ai les chums qui l'ont fait en gang, tu l'avais raconté.
On se fait obliger, là, à s'habituer.
Ouais. Les chums qui l'ont fait en gang.
Un party de vasectomie. Hey, moi, je trouve c'est ça drôle. Là.
J'aimerais ça à 90 ans me vanter que j'étais encore Starbucks. Là.
Mais c'est pas le cas.
Tu trouveras pas de proie, là, mon chum.
Qu'est-ce que vous en savez?
Je le souhaite pas, en fait.
All right. Pas hey, on salue nos stagiaires qui écoutent ce pur moment de radio.
Bon dîner.
C'est 2 degrés sur Québec pour aujourd'hui. C'est nuageux. On parle, tu vois, les précipitations, on parlait de 5 cm. Là, on est entre 2 et 4 cm pour ce qui est d'aujourd'hui. Avec des rafales à 60 km/h, des températures stables à près de plus 2 degrés. Ce soir, cette nuit, c'est de la neige qui devrait cesser au milieu de la nuit. Encore là, un 2 à 4 cm pour ce soir et cette nuit, minimum de moins 8 degrés. Mercredi, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de plus 1. Jeudi, c'est ensoleillé avec un maximum de 6. Et vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 6 degrés. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité aujourd'hui?
C'est sûr que je surveille Wall Street avec beaucoup d'attention. On a ouvert en hausse après plusieurs jours de débat. Qu'est-ce que c'est terminé? Ben, on nous dit que non. Là, honnêtement, ça ne sera pas la première épiphanie du côté de la bourse. Là. Contrairement au dernier jour, par exemple, ça se peut que ça vous ait rassuré. Il y a eu un rebond. Ça a été insufflé par les marchés asiatiques. Il y a eu un regain d'optimisme sur certaines personnes puis des places boursières européennes. Sachez que ça va fluctuer énormément encore dans les prochains jours. Projet de loi du côté de Québec, on veut s'attaquer aux courtiers immobiliers malhonnêtes. Est-ce que la CAQ souhaite retourner dans les girons médiatiques pour parler de choses qui vont peut-être vous intéresser? Je sais pas, mais ils se disent exaspérés de la profusion de courtiers immobiliers qui sont malhonnêtes et on veut resserrer l'encadrement de la profession pour aller trier plus efficacement tout ce qui est vrai, tout ce qui est malhonnête. Officiellement, tu le sais que pendant la pandémie, il y a un rebond de cette profession-là. Beaucoup de gens qui se sont tournés vers une carrière en immobilier. Sinon, il y a une femme qui est restée en détention avec son bébé. On dit qu'il y a une chauffarde récidiviste qui va purger le reste de sa peine à la maison. Elle avait tué un aspirant policier. C'était en 2018. Elle avait conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool. Et bon, elle a dû accoucher en prison et va pouvoir bénéficier d'un répit puis retourner chez elle. Et c'est là qu'elle va purger le reste de sa peine. Ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Je te dirais, Yannick, il y a des gens qui sont en total désaccord, qui se disent, ben, y en a-tu qui vont vouloir être enceinte, accoucher, puis bénéficier de ce petit passe-droit-là. Mais en mai dernier, elle avait écopé d'une peine de 4 ans de détention, puis c'était supposé se passer entre les murs.
Au départ, je le voyais pas comme ça. Puis effectivement, il y a des femmes qui pourraient décider une fois dans les centres de détention parce qu'ils ont des visites là, où ils peuvent être en contact avec un conjoint. Peuvent décider de tomber enceinte pendant qu'ils sont dans le milieu carcéral pour pouvoir sortir peut-être un peu plus rapidement. Je le voyais pas comme ça, je le voyais plus du point de vue de l'enfant. Un enfant, sa place, c'est pas de naître en prison. Là. T'sais, même s'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il le sait pas, là. C'est pas un milieu pour les enfants. »
Absolument pas, mais tu te dis, est-ce que normalement, ça devrait être régi, t'sais, les contacts sexuels? Je pense que ça devrait pas nécessairement être quelque chose que tu as le droit dans tes visites avec supervision.
Ouais. En même temps, ils veulent être le plus humain possible. On est au Canada.
Mais surtout la prison à cette île, pays de cul, là. Le pénitencier, là, je veux dire, eux autres, ils ont des petites maisons dans lesquelles ils peuvent aller quelques jours superviser, puis ils peuvent avoir de la visite de l'extérieur de la prison. Je comprends, mais c'est quoi après? C'est ta punition en prison, là. De plus en plus, on voit que c'est un milieu de vie. On le comprend parce que tu veux pas enlever toute espérance et souhait de vie de la personne. On veut qu'elle retourne en société après sa peine de prison, à moins qu'elle soit à vie, puis qu'il y ait une façon d'opérer. C'est pour ça qu'il y a de l'école dans des prisons. Tu peux suivre des cours, tu peux gagner de l'argent aussi, un petit salaire en faisant des petites tâches.
Mais je sais pas, je te pose la question parce que j'ai pas la réponse. Peut-être que quelqu'un l'a, 418-971-101, mais je pense que ça touche les droits de l'homme. Là. Tu le droit d'empêcher une femme de tomber enceinte à l'intérieur des murs en lui donnant une piqûre obligatoire à chaque quelques mois.
Moi, c'est juste dans les contacts sexuels. Tu peux voir tes gens, mais tu n'as pas le droit de toucher, de coucher, de sexualité. Pas une histoire de je t'oblige à prendre ta pilule à chaque jour.
Mais encore là, ça va-tu à l'encontre des droits de l'homme quand tu l'empêches d'avoir ça? T'sais, au Canada, on est assez soft là, pour ce qui est de
mais
nos
la copulation n'est pas dans le droit
mais
de l'homme. Là.
Ma réponse première, c'est qu'un enfant n'a pas sa place en prison là, de la naissance jusqu'à ses quelques années.
Il n'a rien fait, rien demandé.
Je suis content de voir qu'ils vont la sortir. Je trouve juste ça plate et triste pour la famille de Julien Lachance qui, lui, est décédé et qui n'aura plus jamais la chance de pouvoir vivre sa vie et d'avoir une vie familiale. mal.
L'autre sensibilité, tu sais, dans ce genre de dossier-là, tu le sais, le criminel là, qui voulait changer de sexe puis purger sa prison dans une prison pour femmes. Il y a beaucoup qui criaient au scandale. T'sais, on s'entend-tu que ce gars-là il a convaincu personne qui était femme et se sentait femme depuis des années. Il voulait devenir donc une femme pour finalement aller purger sa peine de prison avec des femmes et non se faire peut-être tabasser ou avoir des liens douteux avec des hommes dans une prison normale. T'sais, celui-là, on l'a trouvé de petit schnappant pas mal. Là. Je pense qu'il faut faire attention avec certaines choses. Tragédie de la garderie à Laval, je t'en parlais hier. Je trouve que c'est quand même une des nouvelles les plus importantes à suivre. On en parlait hier parce que Pierre Ni Saint-Amand était de retour en cours. En fait, son procès commençait puis la vidéo a été diffusée au dit procès du chauffeur du RTC. Rappelez-vous, il est accusé d'avoir tué deux enfants en 2023 et rentré avec son autobus du RTC dans une garderie à Laval. Ça avait tué des enfants, ça avait blessé beaucoup d'autres. Puis il y avait beaucoup de parents aussi qui avaient été sans connaissance de cette histoire-là. On se demandait, coudon, y a-t-il un malaise ou il a vraiment choisi de foncer dans la garderie. Véhicule lourd à l'intérieur, il y avait une caméra. Et le 8 février a été montré dans tout l'incident directement en cours.
Ouais. Les médias se sont gardés une petite gêne. Là. Il y avait une ordonnance de la cour là, concernant le moment où l'autobus rentre dans la garderie.
C'est normal.
C'est une très bonne chose, mais j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui étaient à l'intérieur de la salle de cours, qui devaient assister à ça, de voir réellement toutes les images. Deux bébés qui sont malheureusement décédés. On va en parler peut-être un peu plus en détail avec Denis tantôt, mais là, lui, il risque de s'en sortir. Là. Il va aller dans un hôpital psychiatrique pendant quelques temps, puis quand les médecins vont juger qu'il peut retourner à la société, bien, il va retourner à la société.
Oui, examen psychiatrique qui avait été demandé sur Pierre-Ni Saint-Amand. Il a plaidé non coupable, il admet par contre avoir tué deux enfants.
Il était juste pas chauffeur du RTC en passant.
Oui, t'as raison. C'est à Laval. Hey, on parle tellement du RTC ces temps-ci que bon, ça prend toute la place dans ma tête. Et je termine avec le fait qu'il y a plus de 200 migrants à la frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle. On a, du côté des autorités frontalières, enregistré des hausses assez importantes des demandes d'asile depuis le début de l'année. Ça concorde avec l'élection de Donald Trump, faut le dire. C'est dans cette foulée-là politique de déportation du président américain. Puis il y en a qui se sont présentés tout simplement au poste frontalier en demandant l'asile. Et ce week-end, c'est là où on a eu 200 personnes qui se sont présentées. Ça, c'est celui à une heure au sud de Montréal, le poste frontalier qui est. En 6 jours, au mois d'avril, 557 personnes qui avaient fait des demandes d'asile. Et à titre comparatif, là, quand on regarde pour janvier, février, janvier, on était à 560, février, 755 et 1356 en mars. Hey, c'est du monde, là, des expulsions massives. Et je te dirais qu'on n'est pas ferré pour les accueillir quand on regarde les derniers mois. Ça, c'est une opinion personnelle. Là. On est loin d'être ferré pour accueillir ces gens-là qui se retrouvent quand même à avoir besoin d'aide là, sincère et humaine.
On en sait un peu plus sur le possible départ d'Elon Musk là, dans l'équipe de Donald Trump. Là, actuellement, sur Twitter, là, c'est la grosse guerre. Elon Musk qui répond à Navarro, à Peter Navarro, qui est un des proches alliés de Donald Trump. Ce que Navarro a écrit, c'est ce que nous voulons, et c'est là que nous avons des points de vue différents avec Elon Musk, c'est que les pneus soient fabriqués aux États-Unis, tout comme les transmissions et les moteurs. Et Elon Musk a répliqué sur Twitter en disant « Navarro, t'es vraiment un crétin. Ce que tu dis ici est faux et c'est facile à prouver. »
Mais c'est le conseiller au commerce de Trump. Il faut savoir, c'est un des grands alliés de Trump. On l'avait dit, hein? Ouais. Ça va péter, hein, ces deux narcissiques-là.
Et ensuite, il a ajouté « Navarro est bête comme ses pieds. Bon. » Donc, c'était clair que ça allait terminer comme ça. T'avais l'homme le plus riche du monde entier qui s'associait avec l'homme le plus puissant du monde entier avec deux égos assez démesuré, parce que pour être rendu là, faut avoir un ego assez démesuré. Puis là, c'est en train de péter. Puis j'ai juste hâte de voir comment ça va finir.
C'est pas entre les deux, par exemple, on aurait pensé. Là.
Elon Musk a aidé beaucoup Donald Trump pour ce qui est de sa campagne électorale.
C'est aussi un gars qui gère un réseau social.
Oui. Ouais, oui.
Ça, c'est important de le dire puis de le rementionner. Là.
Fait qu'il fait,
c'est du privé puis c'est des choix.
Il peut y avoir de l'influence.
Ouais, oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Bon, puis peut-être terminer avec les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe un petit peu partout au Québec, à Québec. Aujourd'hui, c'est les CPE qui sont en grève, c'est pour 3 autres jours, à moins qu'il y ait une entente avec la province. On est en négociation avec le Conseil du Trésor depuis plusieurs mois, donc des nouvelles journées qui se sont ajoutées 14, 15 et 16 avril prochain.
On a-tu des news de mon petit orignal à Lévis?
Tu le suis encore,
c'est
toi?
Tellement cute! J'aime ça, moi. J'envoyais régulièrement. Toi, tu as travaillé en Beauce oui. aussi. Là. J'envoyais régulièrement, moi, le matin à Saint-Georges-de-Beauce, quand j'arrivais vers 4h30, 5h. C'était très tranquille dans les rues. Puis je voyais beaucoup de chevreuils dans les rues de Saint-Georges. On les signalait à la police, bien entendu, mais je voyais aussi beaucoup d'orignaux. Puis là, malheureusement, il y en avait un qui se promenait bien relax dans le secteur de Lévis. Écoute, regarde sur la photo, là. Il est couché bien relax sur le terrain. Puis regarde dans la voiture, il y a un enfant qui regarde
le gros orignal. Oui, mais c'était impressionnant quand même. Il était sur le boulevard Guillaume-Couture ce matin. C'était près des Galeries Chagnon. Là. Puis il se baladait au centre-ville. Lui, il se fait une petite promenade de santé. Puis ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident, d'incident non plus, vu la présence de l'animal. Des fois, c'est ce qu'on peut s'inquiéter, en fait, mais il y a une surveillance qui est assurée par les agents de la faune.
À 11h, tantôt, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré dessus avec des fléchettes pour l'endormir, puis après ça, ben, ils vont l'embarquer dans un camion, puis ils vont aller le libérer plus loin.
Oui, pour l'endormir.
C'est une belle histoire. Ouais. C'est une belle histoire.
Moi, ce que j'aime lire, c'est « Un orignal, cause l'émoi à Lévis! »
Ouais. Moi, je me souviens d'un gros moustacheux qui travaillait à la radio dans le temps, qui avait parlé d'une histoire d'horreur impliquant une vache qui menaçait d'embarquer sur l'autoroute 20 à la hauteur de Lévis. Les policiers de la ville de Lévis avaient été appelés en renfort pour empêcher la vache d'aller directement sur l'autoroute. Et ils ont tiré 8 fois sa vache. Puis la vache est repartie.
C'est super dangereux, Yannick. Puis... imagine une vache là, devant ta voiture.
Je comprends, mais ils ont tiré 6 fois dessus, puis la vache est repartie.
Oui, elle fait forte. Hey, les vaches punk, là.
Et ce qu'on nous a expliqué,
ils ont cherché longtemps aussi, là.
C'est que le type d'armes que les policiers ont, puis le type de balle, c'est pas suffisant pour traverser le crâne de la vache. Fait que la vache a certainement eu mal, mais c'est juste qu'elle a sacré son camp. Mais il est où le cœur de la vache? Est-ce quelqu'un qui le sait? Tu sais, t'es policier, tu sais pas tout, là.
En dessous de la tête, mettons, ou avant les deux pattes?
Bien, en dessous de la tête, techniquement, c'est la mâchoire.
Non, non. Tu descends le cou, là. Après ça, t'as comme les deux pattes en avant.
Les deux pattes d'en avant.
Là, je suis en train de t'affaire la vache.
Moi, je pense qu'il pourrait être là.
Ben, moi aussi, je pense qu'il serait là. Comment s'appelle le cœur? Non, je vais pas le savoir.
Où est le cœur de la vache? Mais bref, ça avait pris 6 à 8 coups pour tuer la vache. Puis finalement, c'était pas suffisant. Elle est repartie sur ses 4 pattes. Elle n'a pas été sur l'autoroute.
Dangereux pour les gens, Yannick, ça.
On mentionne pas cette vache-là.
Sur la route, là, j'ai vu là, dans les dernières heures, il y avait un camion d'éco-centre. Qui avait, je sais
un quoi?
Pas, camion d'éco-centre. Il y avait une toile par-dessus. Ouais. Il y avait plein de déchets dedans d'éco-centre qui sortaient sur l'autoroute. Ah. Mais tu voyais, André, c'était comme du papier de toilette, des cartons, des ci, des ça. Et le chauffeur qui s'en rend compte, toi, c'était un genre de Elvis Graton qui conduisait puis qui avait tapé. Tu le vois dans sa fenêtre répondre, mais je sais pas ce qu'il a fait, là. Il a-tu arrêté, j'espère? Il était sur la 20 ce matin, mais s'il a pas arrêté, là, il t'en a ramassé une coupe de pare-brise avant.
Mais il y en a qui se promènent avec du stock pas attaché, puis ça se libère sur l'autoroute. À Québec, c'est arrivé, si je me trompe pas, c'est l'année passée ou l'année d'avant, pendant qu'on faisait la réfection de l'autoroute Henri IV, un camionneur qui se promenait avec la benne ouverte.
Aïe, aïe.
La benne est élevée, puis il a décidé, lui, qu'il passait en dessous du viaduc, puis ça avait arraché une partie du viaduc, puis une partie de sa benne.
Ça fait un an, ça, mais il y en a eu quelques-uns. Il y a comme eu un moment, puis il y a des gars qui disaient qu'il y avait des camionneurs qui désactivaient le signal d'alarme. Le son là, sonore qui te permet de savoir si t'as oublié de fermer ta benne. Il y avait plein de gens qui nous avaient écrit au 88-971-1021, autant que de gens qui m'ont écrit, Pascal, ce n'est pas le RTC.
On me dit, le cœur... C'est le chum Guillaume qui m'écrit ça. Il dit « Le cœur de la vache, c'est derrière la patte avant gauche. »
Tiens,
on l'a. Tu vois, on apprend des affaires à tous les jours ici. Vous ne l'auriez pas cru, hein?
Puis il y a quelqu'un qui dit « Yannick, une vraie vache n'a pas de cœur.
» J'embarque pas dans ces jokes plates-là. 418-971-1021, 418-971-1021, on vient.
C'est un beau oui-dit, mon gars. Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Midi, 2 minutes, Denis Gravel qui est en place. L'après-match de son entrevue hier avec peut-être le futur maire de la Ville de Québec, qui sait, Sam Ahmad. J'ai très hâte de voir les prochains sondages qui vont sortir là, depuis que Sam Ahmad s'est bel et bien lancé dans la course à la mairie, parce que là, il y a plusieurs personnes qui se présentent. Il y a le maire Marchand qui se représente, le maire sortant, Sam Ahmad qui arrive, Stéphane Lachance qui est là.
Claude Villeneuve.
Puis on a Jackie Smith aussi.
C'est beaucoup trop.
Ben, c'est ce que je te disais hier.
C'est fait drôle de dire qu'il y a trop de candidats, parce que plus il y a de candidats, plus il y a de choix.
Mais est-ce que c'est vraiment vrai à Québec que parce qu'il y a plus de candidats, il y a plus d'alternatives? On en a parlé souvent. Je veux dire, Claude Villeneuve et Bruno Marchand, des fois, c'est dur de distinguer les programmes et les visions. On sait que Sam Ahmad va probablement annoncer une fusion avec un parti municipal déjà en place. Moi, je pense que dans cette élection-là en particulier, qu'on réduise le nombre d'alternatives ou pas, ça va rester une lutte à deux. Puis on a lancé ça hier, tabarnouche. C'est parti, enfin!
Oui. Est-ce que t'as été agréablement surpris de sa présence sur nos zones? Est-ce qu'il t'a appris quelque chose? Comment était-il face à vos questions? Moi, j'ai réécouté l'entrevue par la suite, là, après Marceau soir, en soirée. J'ai trouvé que c'était une super bonne entrevue. Par contre, je l'ai senti fatigué sur certaines questions. Ou à un moment donné, je pense que c'est Audrey qui a posé la question, mais pourquoi vous dites pas tout au départ?
Ouais.
Il était comme tanné. Il était tanné.
Puis en même temps, il faut qu'il comprenne de son côté qu'on parle au fantôme de Sam Ahmad depuis maintenant presque 2 ans. Fait qu'évidemment, pendant 2 ans, les questions, on les a accumulées. Puis, mais il a fallu s'ajuster, veux pas, Yann, parce que, tu sais, comment j'ai trouvé Sam Ahmad? Ben, il avait déjà affiché ses couleurs la veille quand il a fait son annonce devant son public conquis d'avance. Donc, je me doutais qu'on ne saurait pas grand-chose de ses engagements et de son programme. Fait qu'en partant avec cette base-là, par contre, il y a des petites phrases qu'il a lâchées que moi, je trouve drôlement intéressantes. Parce que c'est quoi le but? C'est le plus rapidement possible, c'est trouver les différences entre Sam Ahmad et Bruno Marchand pour faire un choix éclairé.
Parce qu'on est déjà habitué à avoir des partis qui se ressemblent et qui s'opposent malgré tout à la ville. Là, c'est intéressant pour ça. C'est vrai que la division est importante.
La ville se défend en disant ce que Sam Ahmad a dit hier sur les ondes de radio, c'est faux. On va devoir payer une pénalité. C'est obligatoire. Alors que Sam Ahmad dit, attendez un peu, moi, j'ai lu ce qu'il y avait à lire sur le dossier, puis il y a moyen de ne pas payer de pénalité. Puis quand est-ce qu'un gouvernement provincial poursuit un gouvernement municipal? C'est-tu arrivé dans l'histoire?
Ce qui arrive, et c'est le point commun entre la version de Sam Ahmad et la version de la ville, c'est que tu peux t'entendre avec la vice-première ministre. Tu peux t'entendre pour dire on laisse tomber le projet pour des raisons d'économie, par exemple. Ce qui va être facile à amener si on décide d'abandonner le projet en 2027. Donc, il y a toujours une possibilité qui finit pas avec des amendes et des pénalités. Mais pour les gens qui veulent le tramway, c'est sûr qu'ils vont essayer de faire du chemin le plus possible avec cet argument-là, mais ça commence à s'accumuler. On sait que le gouvernement peut dire non en 2027. On sait maintenant qu'il y a une possibilité d'entente sur les pénalités advenant qu'un maire actuel ou futur décide de ne pas aller de l'avant avec le tramway. Encore faut-il s'asseoir puis se parler. Encore faut-il qu'il y ait de la bonne volonté des deux côtés ou qu'il y ait une élection à gagner, ce qui va être le cas au provincial.
J'ai une hypothèse là-dessus sur l'idée de Sam Ahmad, 418-971-101. Je vais entendre les auditeurs sur cette hypothèse-là, peut-être d'autres hypothèses. J'ai l'impression que tout va être applicable. Tout ce qui va se passer du nord vers le sud et du sud vers le nord va être applicable dans ce qui a déjà été annoncé. Mm-hmm. Mais le tramway ne se fera pas tout simplement. Puis on va remplacer ça par un fameux SRB. Le fameux SRB de Régis Labeaume d'antan.
Ouais, ce qui est appelé la mobilité intelligente. Moi, j'ai l'impression qu'on va revenir à peu près à 95% de ce qu'était le projet du SRB, qui était l'alternative au tramway à partir du moment où on n'en faisait pas. La taxe au chat. Bullshit qui m'a dit Sam Ahmad. J'ai été surpris par le franc de la réponse. Dans ma tête, mon interprétation, c'est qu'il va l'enlever.
Ben avec bullshit.
Peux-tu vérifier? Je pense que Sam Ahmad vient de la Syrie, de mémoire.
Oui. Il nous en a parlé hier, il vient de la Syrie.
Ben, tu sais quoi? Ça m'a mis à terre ben raide d'entendre que c'est un Syrien qui dit « Au Québec, là, faire un feu, là, c'est la base. Ça fait partie de notre culture.
Ouais.
Alors que t'as l'autre qui est né ici, qui dit « Les feux dehors, ça tue 100 personnes par année. »
Ben, vois-tu, ça, c'est l'autre point que j'ai trouvé intéressant. On commence à les sentir, là, les points de distinction entre Bruno Marchand et Sam Ahmad. L'histoire de l'interdiction des feux de foyer, Sam Ahmad n'a pas de l'air très enclin à poursuivre sur cette lignée-là. La démolition du Colisée, il trouve que c'est un autre dossier où on a bretté. T'as l'impression que pour Sam Ahmad, le livre n'est pas fermé. Le feeling qui est un peu décevant dans une conversation comme celle-là, puis Moi, j'ai eu du plaisir à faire l'entrevue, puis sa maman était de bonne humeur, puis on a jasé une quarantaine de minutes, c'est super. Mais tu sais qu'il y a des annonces qui vont s'en venir en campagne électorale. On revient à la stratégie, on revient au plan de campagne de mobiliser et de causer le discours à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, dans la campagne électorale, jour 3, tu vas avoir une annonce sur la taxe aux chats. Jour 5, tu vas avoir une annonce sur les feux de foyer. Jour 7, tu vas avoir une résolution sur la taxe sur l'immatriculation des véhicules, parce que là-dessus non plus, Sam Ahmad n'avait pas de l'air de trouver que c'était une bonne collaboration avec les automobilistes d'imposer ce montant-là et cette taxe-là.
Mais j'ai hâte qu'il livre, parce que de dire que ça, ça n'a pas de bon sens, mais à un moment donné, de l'autre côté, l'économie de Québec ne va pas super bien. Les coffres ne sont pas très bien remplis. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit « Pour demander un effort supplémentaire à tes citoyens, il faut que tu démontres, toi, de ton côté, le premier effort. » Et ça, on ne l'a pas entendu de la part de la mairie. Là.
Il nous a reconfirmé qu'il était là pour 4 ans. J'aime beaucoup ce deal-là.
Je pense que ça va être le point fort de sa campagne.
Je pense que moi aussi, je suis d'accord avec toi, j'ai un peu la même vision.
Il
parce
a
que
pas c'est... besoin de cette job-là.
Mais
le gars aussi, il va là pour faire le ménage.
Moi, j'y ai dit, mais lui dit que c'est un engagement puis qu'il ne se voit pas poursuivre après ça. Il va préparer de la relève pour poursuivre, mais il pense que 4 ans, c'est suffisant pour faire ce qu'il veut faire avec la Ville de Québec puis pour mettre de l'avant les engagements qu'il va nous annoncer vraisemblablement.
Denis, tu fais de la radio, tu le sais qu'il y a en onde et il y a hors d'onde dans une entrevue avec une personnalité ou n'importe qui passe ensemble, même nous ensemble. Qu'est-ce que tu as senti hors d'onde ou dans la prestance de Sam Ahmad qui n'a pas été perçue en entrevue?
Écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que Sam Ahmad est content de revenir dans l'aquarium. Puis le feeling que j'avais, c'est qu'il était content de commencer à parler au monde de Québec, puis du fait qu'il voulait redevenir. Puis c'est ça qu'il m'a dit, puis je pense qu'il me l'a dit à l'extérieur des ondes. T'sais, ça fait des mois que je suis dedans, là. C'est juste qu'on peut pas en parler encore. Fait que tu sais, le clash depuis 24 heures versus depuis quelques mois, je le vis pas vraiment, mais moi, je l'ai senti. Mm-hmm. J'ai senti que la vibe... C'était la vibe d'un gars qui était content de retrouver
la
politique.
Il y a un truc quand même de Sam Ahmad que j'ai goût de mettre en lumière, c'est qu'il nous a pas menti. Il a jamais dit quand il allait le faire, mais on était capable de savoir qu'il allait le faire.
Ben oui.
Depuis un an, tu croisais cet homme-là. Puis ça m'a donné un peu l'idée de comment il va faire de la politique pour la suite. Surtout qu'un mandat de 4 ans, là, le avant... Bien qu'on soit au courant, qu'il soit au courant qu'on est au courant, qu'on attend juste une date, la manière dont il a managé ça parle de lui.
Quelque chose qui peut être intéressant d'ailleurs, puis ça, c'est pas nouveau, là, il l'a fait à toutes les entrevues qu'il a faites ici. Il renvoie un texto après pour demander, les auditeurs, ils ont trouvé ça comment?
Il est très alerte là-dessus.
Oui, puis je pense que c'est justement pour être en mesure de s'ajuster s'il y a des choses qui ont mal passé ou whatever, puis j'imagine que s'il le fait ici, il le fait sur les autres tribunes aussi. Moi, cette curiosité-là, ça peut être perçu de deux façons. Soit que tu as la carapace très sensible puis tu veux absolument là, réagir à des critiques qu'il pourrait y avoir, ou encore, tu sais, quand on dit on veut ramener le citoyen au cœur des décisions et ainsi de suite, on peut voir une écoute là-dedans. Puis je pense que dans le cas de Sam Ahmad, c'est vraiment une curiosité à savoir, je suis ces bonnes affaires, je me présente-tu de la bonne façon, est-ce que j'ai les bonnes idées et ainsi de suite.
Il est très, très, très groundé. Puis ce que j'ai aimé hier, je pense que c'est dans cette entrevue-ci, c'est quand il a dit la ville a décidé, j'ai tendance à vouloir prendre son accent, là. La ville a décidé, Denis.
Monsieur
de faire elle-même un projet de 10 milliards.
Ouais,
là, le CAQ a dit, attendez un peu, là, c'est un gros projet. Si ça déborde, ça va être l'enfer. Donc, on a retiré ce projet-là à la ville. On s'est fait enlever ce projet-là. Puis c'est vrai qu'on se l'est fait enlever. Mais le problème, c'est que même si le maire Marchand dit, ce projet-là, ça va faire partie de mon mandat que j'ai fait de 4 ans, puis ça va être dans mon bilan. Ça ne peut pas être dans ton bilan, tu te l'es fait enlever.
Exact.
Et ce projet-là ne t'appartient plus.
Puis tu l'as enlevé à la Ville de Québec, ultimement.
Moi, carrément.
Je suis peut-être un peu chauvin à ce niveau-là, parce qu'on est d'accord ou pas avec les décisions d'un maire ou les décisions d'une ville, mais moi, je pense que c'est à une ville de contrôler un projet comme celui-là. T'sais. Si on nous l'a enlevé, il y avait peut-être des bonnes raisons. Puis c'est peut-être le plus grand paradoxe déjà de Sam Ahmad, le politicien, de dire et de répéter qu'il veut pas attaquer le maire Marchand, mais il l'a planté en tabarnouche hier, par exemple. Ouais. On jase, là.
Vraiment. T'attendais-tu à ça ou tu t'attendais à plus de finesse, et je le dis pas dans la mauvaise façon de le dire?
C'est parce que si tu joue la carte en partant que tu feras pas de politique contre les gens en place, mais que tu le fais, je trouve qu'il y a un paradoxe là qui sert peut-être pas sa mamade. Dis que t'es là parce que t'es pas satisfait du travail du maire puis de l'hôtel de ville, puis vas-y. Je veux dire, hier, ça a été une charge à fond de train contre l'administration de Bruno Marchand.
C'était mon point négatif. Ouais. Je me disais, il n'y a pas besoin d'aller là. Il n'y a pas besoin d'aller là, donc pourquoi aller là?
En même temps, si c'est ça qui le motive, il faut qu'il nous l'explique. Exact. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Moi, c'est surtout ça qui m'agace. Ouais. Là,
bien dit.
Exact. Hey, je te ramène un peu sur un dossier que j'ai parlé tantôt avec Pascal. C'est le fameux chauffeur d'autobus en psychose. Là. Il y a eu deux enfants qui sont décédés. Puis hier, ben, autant du côté de la Couronne que de la Défense, on disait que ce gars-là, Pierre Nie Saint-Amand. Il y avait eu un épisode assez particulier où il était totalement en psychose parce qu'il y avait beaucoup de stress dans les derniers jours parce qu'il était supposé se marier. Puis là, ben, pour avoir les papiers, il fallait qu'il retourne dans son enfance. Puis là, il y avait comme pas de papiers, pas d'identité. Ça lui a joué dans la tête. Puis il est en psychose. Puis là, on va l'envoyer probablement dans un hôpital psychiatrique où on va l'évaluer pour finalement dire après quelques temps, ben c'est beau, vous êtes correct, vous allez pouvoir sortir. Ça me tue, moi, à chaque fois. Là, t'as tué, t'as enlevé la vie de deux enfants, Denis.
Écoute.
Puis de voir que le gars va s'en sortir de cette façon-ci. Puis, tu sais, son parcours psychologique, là, je ne le connais pas. Je suis pas les psychiatres qui ont travaillé là-dessus. Ils se sont présentés hier, les deux psychiatres, en disant que Pierre Nie Saint-Amand, après ce qui est arrivé, se souvenait plus de rien. Puis, à un moment donné, il disait qu'il était pris avec une personne à l'intérieur de lui qui voulait prendre contact avec les parents puis les enfants décédés. Tu sais, quelqu'un qui saute une entité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oh. Quelqu'un qui saute un crinque, là. Mais je veux dire, en bout de ligne, c'est quoi? Dans deux ans, il va pouvoir retravailler, ce gars-là? Là?
C'est parce que dans des histoires comme celle-là, on n'a pas de sentiment de justice.
Non.
Pour qu'il y ait un sentiment de justice, il faut qu'une personne qui a tué des enfants s'en aille en prison. Puis on a de la misère à accepter des histoires de psychose parce qu'on se dit, ben rendu là, on a tous des épisodes de stress, que ce soit pour des raisons personnelles, des raisons de job. Hey, on est des impôts, là, ces temps-ci. Il y en a quelques-uns qui sont stressés puis qui sont cédants, là. On fait pas des psychoses, nous autres. Ouais, mais vous autres, vous êtes pas malades. C'est parce que, y a-tu quelqu'un de sain d'esprit qui tue du monde? Si on veut revenir à la plus simple expression du crime, il y en a pas beaucoup. Fait que rendu là, tu peux toujours blâmer la fameuse psychose où les fils se sont toucher votre honneur.
Puis tout ce qui nous revient de ça, c'est de voir comment on prend soin des gens et de la santé mentale des gens, mais pas après un drame, expliquer et empêcher le règlement de compte social.
Tu sais, il y a du monde qui sont morts, puis moi, la seule façon que j'ai trouvé de me consoler en tant que citoyen, c'est de me dire, tant qu'il y a une porte qui ferme, puis qu'elle se barre, puis que c'est pas lui qui a la clé, que ce soit d'un asile ou que ce soit d'une prison, je veux dire, j'essaye d'aller chercher mon sentiment de justice là-dedans. Par contre, si dans un an et demi, on dit « la psychose, c'est fini, ça, c'est ta liste de médicaments, puis tu retournes chez vous. »
Retourne à la maison, je trouve ça inacceptable.
J'ai un petit peu de misère à gérer ça.
Ils ajoutent des détails, là, tu sais, là, ils sont en cours, ça a commencé hier, là, dans les trois dernières minutes, ce qui est sorti, c'est qu'ils s'étaient dévêtus, mettons, après le drame, avant d'aller constater. Ils sont en train de les énumérer. C'est normal, en passant, là, ce que le journaliste et les journalistes font, là, c'est de rapporter la nouvelle, mais...
Puis là, il y a des gens qui commettent des crimes aussi, qui connaissent la stratégie puis qui l'essayent.
C'est ça.
Bissonnette l'a essayé.
On jasait de ça.
Ça fait passer pour fou. Puis, tu sais,
ça n'a pas marché.
Je répète, là, tu sais, des enfants qui ont été victimes de violences dans leur enfance, là, j'ai plein d'empathie pour eux. Mais c'est quoi? C'est 1 à 2% de ces enfants-là qui vont commettre des épisodes de violence. Est-ce que c'est vraiment un facteur atténuant rendu en cours? Tu sais, moi, là, je lisais le nom des petites victimes. Là, Jacob Gauthier, 4 ans, Maëva, 5 ans. Pour vous autres, ça dit absolument rien, mais pour des parents, eux autres, c'était leurs enfants, c'était toute leur vie qui ont été, qui étaient dans ces petits êtres-là. Puis là, ils voient un gars qui va probablement s'en sortir assez facilement. Puis les psychiatres Kim Bédard-Charette et Sylvain Fauché ont dit que les hypothèses les plus plausibles, c'est un épisode psychotique non spécifié ou bref. OK, suivant ça, on va le traiter pendant quelques mois, quelques années, 2-3 ans, puis on va le laisser ressortir. Moi, j'ai de l'empathie pour les gens qui font des psychoses, là, mais ils devraient être dans un hôpital pendant 25 ans. Si t'es quelqu'un de sain d'esprit que tu es, t'es dans une prison pendant 25 ans. Mais de l'autre côté, l'hôpital psychiatrique pendant 25 ans, ça serait une belle forme de justice. T'as tué, t'as enlevé la vie de deux enfants.
Puis si on veut faire une image sombre, mais réaliste, les parents des enfants décédés, eux autres, ils ont reçu une sentence à vie. T'sais.
Exact.
Ils vont se débattre dans leur propre prison avec les restants de ce qui reste jusqu'à la fin de leur jour, en se posant plein de questions qu'ils ne devraient pas se poser, en se tordant le cœur, en se tordant la tête. C'est ça qu'on n'accepte pas. C'est ça qui fait le plus mal. Ouais. C'est de dire, OK, lui, il est en psychose, il est correct, on va lui donner ses médicaments, puis après ça, on va le relâcher. Puis pendant ce temps-là, ben, les victimes sont comme pognés avec leur triste sort, puis eux autres, les enfants, ils reviendront jamais.
C'est bien malheureux.
Pense aux parents.
Une personne qui a un problème de santé mentale aussi est capable de dealer avec les conséquences d'action, et ça amène souvent à une prise de médication. Ça amène avec un sentiment de « je veux pas me désorganiser, donc je vais prendre au sérieux la façon dont je vais être traité. » Et ça, là, c'est relié avec la justice, mais c'est super important. Si tu veux que les gens s'organisent dans leur désorganisation, il faut qu'il y ait des conséquences à des actes.
J'ai une idée, un flash. Si on donnait des sentences en institut psychiatrique, est-ce qu'on serait mieux avec ça de dire...
Ben, je pense que oui.
Psychose, mais tu t'en vas 15 ans, 20 ans en institut psychiatrique, puis eux autres rendus là, là s'ils te considèrent sain d'esprit, ben tu seras le maître de la game de cartes au centre social, c'est toi qui tiendras les réunions avec les plus maganés ou whatever, mais t'es là pour 15 ans, t'es là pour 20 ans, ce serait-tu une alternative où on aurait peut-être un meilleur sentiment de justice?
Avec analyse psychologique, par exemple.
Oui, oui.
Je pense aux enfants, puis aux parents. Les parents qui ont vu leurs enfants partir, ils ont dû les enterrer pendant qu'ils regardaient les nouvelles, puis à chaque jour, on parlait de cette histoire-là. Là, le début du procès où les parents sont dans la salle, puis ils doivent se retaper l'accident où ils voient leurs enfants se faire écraser. Non. Puis après ça, ils entendent les psychiatres dire « Ouais, ben pauvre petit, c'était pas de sa faute, il était dans un épisode psychotique par rapport à ce qu'il avait vécu dans son pays étant enfant. » Fait que ça se peut qu'il s'en sorte. Ça, je pense aux parents, il faut que justice soit rendue, parce que comme tu le dis, ces parents-là ont une sentence à vie, puis les enfants vivront pas la vie qu'ils auraient dû vivre. Fait que oui, la solution, ce serait être dans un institut psychiatrique pendant, au même titre que le prisonnier, pendant 15 ans ou 20 ans. C'est juste qu'il va être dans un hôpital plutôt que dans une prison. Mais je sais pas. Je me mets en place peut-être un peu trop des parents. Hein.
Puis le pire, c'est qu'eux autres, s'ils veulent commencer leur réparation, il faut qu'ils se dissocient de ça le plus rapidement possible. Parce que si tu lâches pas le morceau, si tu te résignes pas, tu ne seras pas capable de commencer à guérir. Il faut que tu abandonnes ce bout-là, le sentiment d'injustice, le fait qu'il n'y aura pas de sentence qui va compenser ta perte à toi. Ferme la TV, ferme la radio, puis concentre-toi sur ta réparation, la réparation de ton couple, la réparation de la famille.
Ça doit tellement être tough, par exemple.
Écoute, il y en a qui n'y arrivent pas, c'est tout simplement sûr. Pas. Ouais.
Autre mauvaise nouvelle pour les parents, les employés de 400 CPE dans la province qui vont être de nouveau en grève pour 3 autres journées la semaine prochaine. Mmh. Donc, 14, 15 et 16 avril, les parents devront donc se trouver des solutions pour faire garder leurs enfants. Et ce qu'on dit, c'est que il y a un désaccord là, pour ce qui est des gardiennes, pas des gardiennes, mais des éducatrices en garderie. Il y a un désaccord sur les salaires, le fardeau des tâches, les primes pour les travailleurs dans les régions et l'aide pour les enfants ayant des besoins particuliers. Puis de son côté, bien, le gouvernement dit qu'on offre aux éducatrices une augmentation salariale de 17,4 %, soit la même chose que 98 % des employés de la fonction publique avec lesquels le Trésor s'est entendu dernièrement. Et c'est 91 % des travailleurs en CPE qui sont affiliés à la CSN et qui ont voté le 19 mars en faveur d'un mandat de grève pouvant aller même jusqu'à la grève générale illimitée. Fait que je répète, 14, 15, 16 avril, pas de CPE, les amis.
Tout ce que tu m'as expliqué, c'est des problèmes entre le gouvernement et les éducatrices. Pourquoi les parents écopent encore? Il n'y a rien qui crie solidarité comme de dire à des parents « Organisez-vous avec vos troubles ». J'ai jamais compris cette façon-là de faire les choses, de prendre tes clients littéralement en otage, de créer des désagréments qui font en sorte que tu te dis, ben là, pourquoi c'est moi qui écope au bout de la chaîne, là? Toi, t'as un problème avec ton employeur, pourquoi tu me pitches ce problème-là dans les mains, tu sais? Nous autres, on paye pour avoir accès à un service, normalement, c'est un service qui est fiable. Là, tu me dis, hey, je négocie mon salaire, fait qu'organise-toi avec ton kid, si t'es pas capable de prendre une journée de congé, ben amène-le à job, puis Dieu sait qu'il y a des milieux qui sont pas faits pour ça, là. C'est d'emmerder la vie du simple citoyen Et c'est un caprice syndical qui perdure probablement parce que ça fonctionne et c'est malheureux, puis on devrait jamais céder à partir du moment où la population est prise en otage.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux autres? Les transformer en travailleuses autonomes, puis qui puissent se réunir ou sinon garder des enfants, 2-3 enfants chez eux, puis on fait un prorata, là, combien ça coûte un CPE versus les enfants qui sont à l'intérieur, puis on donne ce montant-là à chaque éducatrice. Fait que t'as le droit à 3, t'as le droit à 4, bien garde-les chez vous tout simplement. Ça fonctionnait comme ça dans le temps, puis c'était pas subventionné.
On a voulu étatiser cette portion-là de notre société. On glorifie encore Pauline Marois pour ça. Moi, j'ai de la misère à voir les retours là-dedans.
Parce que les montants de départ de Pauline Marois, là, c'était ridicule. C'était quelques centaines de millions de dollars. Puis là, on est rendu dans les milliards de dollars investis là-dedans d'un CPE avec des propriétaires de CPE qui se donnent des salaires avoisinant les 100 000 à 150 000 $. Je veux dire, t'as un restaurant, là, tu fais pas ça 150 000 $. Mais un propriétaire de CPE qui, lui, ne s'implique pas, comme les éducatrices spécialisées, fait un gros, gros salaire. C'est ça que Pauline Marois a créé aussi.
Puis écoute, moi, à partir du moment où on a les moyens de les payer puis qu'on décide que c'est une des grandes priorités de notre société, je veux bien. Mais actuellement, tout le monde en arrache. Le gouvernement se doit le cul parce qu'on perd des millions et des fois des milliards dans des projets qui ne soulèvent pas le sol. On essaye de jouer à toutes les tables en même temps. Si tu fais ça au casino, là, après une demi-heure, t'as plus une scène. Là.
Les lucides qui m'écrivent au 418-971-101, David qui dit « Salut, tu sais, quand tu vis à 100$ près de boucler le budget, 3 jours de job en moins, 5 heures en estime. »
Ben, c'est sûr. C'est sûr.
C'est ça, la réalité.
Comment
si
tu veux?
Si ta banque, là, encore disponible aussi, ton employeur, des fois, il n'a plus de possibilités, là.
Puis, je reviens à quelque chose qu'on a vu avec l'école bleue aussi. Les gens qui sont pris en otage, souvent, font pas le salaire des gens qui les prennent en otage. Tu vas porter tes enfants, tu gagnes moins que la personne qui va les prendre, mais la personne qui va les prendre va te dire « Non, 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 t'es garde aujourd'hui parce que je négocie pour augmenter mon salaire. » Toi, dans le char à 75 000, comment tu te sens, tu sais? C'est choquant, là.
Mais là, c'est ça qui est triste parce que ça vient qu'à déchirer.
Ben oui.
Ça vient qu'à déchirer quand... Je suis pas mal sûre que les parents seraient vraiment derrière les éducateurs, les éducatrices en garderie avec d'autres types de moyens de pression. Mais là, je relance la balle du côté du syndicat qui, eux, les orientent encore mal dans leurs moyens de pression puis qui se renouvellent pas. Puis après, le syndicat s'en lave les mains puis tout ce qu'on se souvient, c'est à quel point ils nous ont fait tuer les éducateurs avec... Et ils ont pas notre... soutien derrière tout ça, tandis que je sais qu'il y a tellement de parents qui les aiment et qui vénèrent ces gens-là qui prennent soin des enfants au quotidien. Là.
Mais je suis sûr que c'est une phrase qu'ils ont entendue souvent. Écoute, je serais de ton bord, mais là, tu me fais chier. Là.
C'est triste parce que le gouvernement et le syndicat s'en sortent à toutes les fois, ouais, même avec les enseignants. Avec les enseignants, on l'a vu dans la grève.
Cette stratégie-là fonctionne. Prendre la population en état, en otage, ça fonctionne. Fait qu'ils apprennent.
Rappelez-vous le gouvernement, comment il se retournait vers la population en disant « Voyez-vous, les enseignants, ils scrapent l'éducation de vos jeunes parce que là, ils font une grève. » Eux, là, ça les alimente. Et officiellement, à table de négociation, ils sont capables de dire « Ben là, vous ruinez le Québec. » De toutes parts, financièrement, puis de façon éducationnelle.
Puis nous autres, ben on paye, puis à chaque fois que quelqu'un va augmenter son salaire, ben on perd un service, on se fait prendre en otage, puis après ça, on se demande pourquoi le monde est fâché. C'est sûr que le monde est fâché à un moment donné. Il y en a qui pètent les plombs. C'est malheureux, mais c'est ça.
Hey, thumbs up à Nicolas Brasseur du Journal de Montréal, Journal Le Soleil. C'est un débusqueur de fausses nouvelles.
Ah, j'aime ça.
Bien souvent, il prend des citations de ministres ou encore de candidats, que ce soit au parti, que ce soit à l'Assemblée nationale ou encore à Ottawa, puis il prend une citation puis il la vérifie. Mm. Et là, la citation que Nicolas a pris cette semaine, c'est Luc Berthold qui mentionnait au sujet des impôts payés par les Canadiens après 3 mandats du parti Justin Trudeau que les Canadiens dépensent plus en impôts que pour la nourriture, les vêtements et le logement réunis après 10 ans du gouvernement libéral. Et la réponse, c'est vrai.
Et s'ils ont vérifié, c'est probablement qu'ils trouvaient ça gros comme affirmation. Mais ils sont obligés de reconnaître que factuellement, si tu regardes les chiffres de Statistique Canada, entre autres, ben c'est une triste réalité. On paye plus d'impôts qu'on paye pour se nourrir puis se loger.
Une famille canadienne aux revenus moyens accordait une plus grande partie de son revenu aux impôts qu'au logement ainsi qu'à l'achat de nourriture et de vêtements en 2023. Le rapport indique que les retenues salariales de l'impôt sur le revenu représentaient environ 43 % alors que les dépenses combinées pour le logement, la nourriture et les vêtements est évaluée à 36 % Le 21 % restant sert entre autres aux achats de la vie quotidienne comme le transport, les soins de santé ou encore les loisirs. Le pourcentage d'impôts cité dans l'étude dont les données proviennent de Statistique Canada prend en compte plusieurs éléments comme les taxes de vente et les taxes foncières ainsi que les impôts payés au gouvernement fédéral, provincial et municipal. Si vous habitez au Québec, principalement si vous habitez dans la ville de Québec, vous êtes les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord.
Si,
cadeau.
Si on respecte la mathématique pour en avoir pour notre argent, ça veut dire que les gouvernements en feraient plus pour nous autres que ce qu'on fait pour nous autres pour se loger, se nourrir puis se vêtir. Avez-vous l'impression d'avoir ce retour-là du gouvernement avec les services, la qualité des routes?
C'est pas une question, hein, ça.
Ben non, c'est une évidence. Ouais. C'est une évidence que nous autres, on ne rentre pas dans notre argent, puis on n'a pas le service qui va avec l'investissement.
Puis on n'a pas les politiciens qui gèrent en ayant cette conscience-là, on dirait.
Ben, ils arrivent dans la machine, on va changer les choses, puis ils voient que ça ne change pas. Puis
c'était moins pire avant, là, les finances, là, puis annoncer des déficits avec un sourire, on voyait pas ça, puis on tenait à ce que... Puis le Parti libéral a été vu longtemps comme un parti de finances, le parti au provincial libéral, puis le Parti conservateur, mettons, au fédéral, c'était leur chevaux de bataille, puis ils réalisaient le plus possible.
Les sourires niais de François Legault et Éric Girard sont les sourires les plus insultants que j'ai vus, je pense, depuis que je suis la politique.
Mais Denis, là...
On est content de ce budget-là. Ben oui, super content. On est en train de tout couper les projets à grandeur de la province et on fait ça avec le sourire.
Ils vont les ramener, Fitzgibbon, check bien pour gérer les finances.
Penses-tu qu'il est bien avec sa moto et sa blonde sur le bord du lac? Tu le reverras jamais,
sur
Fitzgibbon.
Sur le patio avec sa corona, il a mis une lime aussi.
Ouais. Qui avait dit la finalité comme peuple, c'est pas d'équilibrer le budget. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple, d'avoir une croissance économique et de gagner à court terme.
C'est-tu un ministre des Finances libérales, ça?
C'est Raymond Bachand,
l'ancien ministre
québécois des Finances qui n'était pas capable d'équilibrer le budget.
Ouais. Si on se doit le cul, c'est pas grave. Tant que t'es heureux. Accueille ça avec le sourire.
Ben, il y avait quand même la nuance de dire qu'il fallait investir puis ça rapporte.
Je l'ai toujours dit. On est bien imbéciles heureux. Midi 29, on fait une courte pause. Merci Denis Gravel. 418-971-101. 418-971-101. Vous avez quoi que ce soit à nous dire, les amis.
Rage Against le matin.
Dites-moi donc, monsieur Déragé, qui est le plus pire, Jonathan Julien ou Geneviève?
Avec Yann Marceau et Pascal Cévé.
Il est 36 minutes, gros match ce soir de 4 points pour le Canadien de Montréal, les Red Wings de Détroit qui seront au Centre Bell. Le Lightning qui a donné un bon coup de main aux Canadiens hier avec une victoire de 5-1 sur les Rangers de New York. Donc le Canadien fait les séries jusqu'à maintenant. Avant de passer à notre prochain invité, juste vous parler des belles promotions qu'on a ici à la station, le fameux Rock'n'Ball. C'est encore le temps, si vous entendez une toune de Lincoln Park, allumez les amis. Là. La partie rock de cette fameuse promotion-là, c'est 2 billets pour le nouveau show de Lincoln Park le 1er août au TD Garden avant même leur passage au Québec. Le côté ball, ben, c'est 2 billets pour les Red Sox au célèbre Fenway Park le 2 août contre les Astros de Houston. Ça inclut le vol, l'hébergement, 500$ en argent de poche parce qu'on fait les choses en grand. Et pour participer, c'est assez simple. T'entends une toune de Lincoln Park, tu t'envoies inscrire l'heure au blvd.fm. C'est un finaliste qui va être nommé chaque jour dans Gravel dans le retour. 3 participations par jour maximum. Donc plus t'écoutes Boulevard, plus tu maximises tes chances de gagner. Puis le mercredi, avec Knockin' Tires, avec Red Jiggins le matin, on gâte une personne au hasard parmi toutes les inscriptions pour rouler avec des pneus d'été. Des pneus d'été neufs, ça vaut jusqu'à 1000$. Donc un gros merci à Knockin' Tires et Dernier Pneus et Mécanique d'embarquer dans cette belle aventure. Prochain invité, c'est Pat Raymond du podcast Financièrement Parlant. Comment ça va?
Ah, tout en prenant mon café.
Oui.
Ça va bien, vous autres?
Ben, je pensais pas te voir cette semaine. Ben honnêtement, là, avec tout ce qui se passe en bourse, je me suis dit, Pat, il doit être dans ses affaires, devant ses ordinateurs. Qu'est-ce qui se passe? Je suis indépendant de fortune, je suis dans la cinquantaine, je veux garder toute cette fortune-là, où est-ce que je peux placer? Hey, je regardais parmi tous les milliardaires qui ont perdu de l'argent, là, il y a mon idole à moi, Warren Buffett, qui lui en a fait des derniers jours. Capoté pareil.
Oui, dans la liste, hein, il était le seul en vert.
Ouais.
Ben oui.
Il y a 94, le bonhomme.
94-95.
Ouais, il est allumé comme un rond de poêle.
Tu sais, quand il dit « ne testez pas la profondeur d'une rivière avec les deux pieds ».
Exact. Ça, c'est dans ses conseils.
Oui, c'est ça. Puis quand la marée baisse, c'est là qu'on voit qui se baignait avec un costume ou pas. Fait qu'il y a des gens qui étaient pas prêts à ça, hein, je pense. Il y en avait qui c'était vogue la galère, puis on a fait 24 % l'année passée, puis le beau-frère m'a dit de placer ça là, ouais. Puis c'est un FNB, fait qu'il n'y a pas de risque, puis ça devrait être pas pire, puis ça devrait... Ben non, FNB, il suit un indice, puis l'indice a perdu 20 % depuis le début de l'année, ouais. Au total tout du S&P, par ouais, exemple.
Je suis un investisseur boursier, voilà. Pat, je m'amuse là-dessus, puis la bonne nouvelle pour moi, là, c'est qu'il me reste à peu près 25-30 ans. Fait que je peux attendre. J'ai pas besoin de faire des grosses transactions parce que je me dis, hey, je veux pas perdre de tout mon argent parce que je suis posé de prendre ma retraite cette année. Tu sais.
T'es pas en train de stresser parce que ça descend. Dis, hey, ça va-tu remonter le temps que je vais en avoir besoin?
Mais je pense aux pré-retraités comme toi, là, ou encore les gens qui sont à 60, 70, 80. Eux autres, ils regardent ça fondre. Là, ça doit être inquiétant. Là.
Ben, c'est stressant. Puis en même temps, quand on rencontre les clients, on disait, mettons, trois tiroirs. T'as un tiroir pour le court terme, t'as un tiroir pour le moyen terme, puis un tiroir pour le long terme, parce que même si tu as 60-65, il y a encore du long terme, il y a encore 20-25 ans en avant, il faut le planifier. Mais la partie court terme, souvent, on va dire, bien, on s'en garde un peu liquide, fonds d'urgence, pareil, comme quand mm-hmm. tu es jeune, puis on s'en garde un petit peu liquide. Puis oui, on peut aller des CPG, parce qu'il y a du monde, on rit de ça, les CPG, mais CPG, c'est pour la dépense de cet été, de cet automne, de l'année prochaine.
Tu vas aller chercher quoi avec un CPG, un 3-4 % à peu près?
Bien là, ça avait baissé un peu, mais ouais, ça peut être autour de ça. C'est à peu près, on peut dire, autour du taux directeur, mettons, là, grosso. Mais, tu sais, ça flotte. Ça va suivre relativement l'inflation, puis encore. Mais c'est de l'argent que tu as besoin à court terme. Fait que quelqu'un qui dit, ben là, j'ai perdu, puis je sortais, puis c'est pour ma retraite, puis ci, puis ça. Non, non, t'es un peu, là. C'était pour ta retraite. Ça devrait pas être exposé au marché américain totalement en action. Ça, c'est totalement en action, là. Normalement, les gens qui nous entendent, là, ils ont des fonds. On appelle ça un fonds équilibré, avec des obligations, puis avec des actions. Ceux qui sont gérés activement par des gestionnaires de portefeuille, bien, ils ont peut-être pris justement de l'avance cet automne parce que les marchés américains étaient quand même assez chers. Ils ont pris une partie, puis ils l'ont réalloué dans d'autres sphères. Ils l'ont peut-être envoyé un peu en Europe, un petit peu dans des marchés même émergents, dépendamment du niveau de risque que l'investisseur peut tolérer. Il y a toute la stratégie qui se fait en amont. Je vous ai parlé de l'Europe depuis le début de l'année, mm-hmm. la dernière fois. Bien, c'était quand même mieux que les États-Unis.
Puis on voit ce matin quand même à quel point il y a un beau point fort pour le marché européen dans tout ce qui a trait à la bourse. Il y a des gens cette semaine qui se disent « Hey, moi, j'ai goût d'investir parce que là, ça a descendu. » Puis on m'a toujours dit « Quand ça descend, c'est là que t'achètes.
C'est le temps de magasiner.
C'est là que tu magasines. » Est-ce que tu es de cette école-là, toi?
Moi, je suis de même.
Ton point est très bon, hein, puis je l'ai entendu beaucoup, là, comme... Yannick disait tantôt, effectivement, j'ai été pas mal occupé dans les derniers jours. Donald, il me donne l'ouvrage. Puis là, je dis, coudonc, j'étais pas à retraite, moi, là, mais j'ai du fun à aider les gens. Il y en a qui appellent, il y en a qui m'écrivent.
Mais mes enfants m'appellent le cheap. Quand je vais chez Metro, là, ils m'appellent le cheap parce que, mettons qu'ils veulent une boîte de biscuits, je prends tout le temps l'étiquette rouge. Mettons qu'ils veulent des chips, je prends tout le temps l'étiquette rouge. Là, hier, tout était au rouge à la bourse. Je me disais, Colin.
T'as magasiné.
Le cheap, il s'en vient.
C'est l'étiquette déclassée vente rapide. Ça finissait avant hier, la date. Mais pour répondre à ton point, d'abord, c'est toujours une belle période pour investir si on a du temps. Le nerf de la guerre, c'est le temps.
Temps.
Si je revenais dans mon cabinet ce matin, puis que je faisais ma profession comme je le faisais avant, puis quelqu'un vient m'aborder, puis il me dit hey, « Écoute, j'ai 25 000, là. Ça serait-tu le temps de le dropper? » Pas de le dropper, c'est peut-être pas le bon, mais de le placer. Pourquoi? Dans combien de temps? C'est quoi l'objectif? Puis on va faire ton profil d'investisseur. Puis si j'ai du temps, si j'ai au moins... Moi, c'est 5 ans, mon gauge, là. Si j'ai 5 ans avant de moi, le risque d'avoir une perte de valeur au bout de 5 ans
est
très faible.
Mais tu le dis
au bout de 10 ans, il est pratiquement inexistant.
Ouais, tu le dis souvent sur ta communauté, là, puis sur sur ton Facebook du podcast, là. 4-5 ans, c'est ça que vous devez viser. Je trouve que c'est un beau conseil à viser de quelqu'un qui est là-dedans depuis des années comme toi. Je vous pose la question. Parmi les 500 personnes les plus riches de la planète, ils ont perdu combien en milliards, ces 500 personnes les plus riches de la planète?
À coût de 30 milliards chacun.
Ça,
là.
C'est des gens pour qui vous ne devez jamais pleurer. Parce que si vous pleurez pour eux autres, on va avoir un problème, OK?
Mais même le monde ordinaire, là, moi, je me considère comme quelqu'un d'ordinaire. Je regardais ça jeudi, je regardais ça vendredi. Puis, tu sais, je ne suis pas exposé 100 % en actions américaines, là. Mais quand même, ça descend de plusieurs milliers de dollars à chaque jour.
Sur les 500 personnes les plus riches au monde, Pat, c'est 536 milliards que ces gens-là ont perdu. Là, ça, c'est du US. Fait que si on le convertit en canadien, ça te donne 763 millions de dollars, milliards de dollars canadiens. Donc, 763 milliards de dollars canadiens que ces 500 personnes-là ont perdu à la gang. Ça, vous ne devez pas pleurer pour
eux. Et ça, c'est une perte de valeur sur des titres que présentement, des gens ne veulent pas.
C'est ça.
Mais si tu achètes 100 titres boursiers puis que le marché descend à 50 %, t'as encore 100 titres boursiers.
Dans les dernières heures, Elon Musk a perdu 31 milliards de dollars. Donc, encore là, c'est en US. Fait que ça fait 44 milliards de dollars canadiens. Puis, total tout, là, depuis le début de l'année, Elon Musk a perdu 185 milliards de dollars canadiens.
Ah oui, hein,
il paraît que ça n'est pas tant rendu compte.
C'est presque la moitié de sa fortune.
C'est capoté.
Ouais, ben on joue dans des gros chiffres, mais pour la fin du mois, ça va. Personnellement, d'après moi, il est correct. Là, mais en même temps, c'est...
Zuki, Mark Zuckerberg.
Cette valeur-là, dans 3, 4, 5 ans...
Il va le reprendre.
Et même plus.
Ben oui.
Forcément.
Il va leur
c'est qui, Zuki?
Zuki, Mark Zuckerberg, a perdu 27 milliards de dollars US, donc 38 milliards de dollars canadiens. Ouais. Jeff Bezos, lui, a perdu 23,5 milliards de dollars US. Bernard Arnault, lui, on ne l'avait pas vu venir. Là. J'entendais son nom.
Lui, c'est-tu Sephora, lui? Hein? Sephora, là, ma fille, elle aime ça aller là.
Lui, il a... Il a la cinquième plus grande fortune. Il a 150 milliards de dollars.
Hallucinant.
On ne l'avait pas vu venir, il a perdu juste 6 milliards de dollars.
Ah, oh, juste.
Juste 6 milliards de dollars. Puis, si on va voir mon chum, Warren Buffett, excellent livre, soit dit en passant, si vous êtes capable de tomber sur les livres de Warren Buffett, là, il y a de très bons conseils. C'est le gars de Berkshire Hathaway. C'est le seul qui a fait de l'argent, lui. Il a augmenté sa fortune dans les derniers jours de 13 milliards de dollars, donc 18 milliards de dollars canadiens.
Ben lui, il a investi à l'envers de tout le monde. Il a toujours été à l'inverse de tout le monde.
94 ans.
Il n'a jamais dépensé.
Toujours du vieux linge, comme moi.
Il a investi...
Comme toi ou comme Pat?
Comme toujours un vieux chat, comme moi.
Il a jamais dépensé.
Mais il investit depuis l'âge de 11 ans. Hein. C'est fascinant, son histoire.
Ouais. Son parcours, c'est quoi? Pourquoi il investit depuis 11 ans? C'est ses parents qui étaient aussi en finance, mettons, très, très rapidement.
Pour ses parents, je ne sais pas. Peut-être tout un... Je ne me souviens pas de ce que ses parents... Tu sais, il y a 94 ans, là, mais depuis 11 ans...
C'est quelqu'un qui a des hantises, des fixations. Mm. Puis lui, l'argent semble être une de ses fixations. Puis ce que j'ai trouvé particulier, je te l'avais déjà raconté dans un de ses livres, quand il s'est séparé de sa première femme. Sa première femme l'aimait tellement qu'elle a dit « Si je me sépare de lui, il ne survivra pas à ça. » Fait que ça y prenait quelqu'un pour lui rappeler qu'il devait manger 3 fois par jour.
Aïe, aïe, aïe!
Donc, ils ont trouvé une femme à Warren Buffett. C'était la dame qui servait depuis des années, qui était la serveuse du restaurant, qui, elle, avait toujours aimé M. Buffett. Puis c'est devenu sa deuxième femme. Il reste encore dans sa vieille maison. Il a encore son vieux char.
Il n'y a pas la dépense facile.
Non, mais ça
l'a sûrement amené à...
Il est dans un monde à part. Il y a des fixations, là.
Oui, bien, on ne dit pas non plus qu'il est complètement sain. Probablement qu'il y a certaines obsessions. Mais tu sais, qui l'est vraiment, dans le fond? Mais le nerf de la guerre, c'est toujours combien tu dépenses, combien tu as besoin pour ton coût de vie. Moins tu as besoin de ton coût de vie... Moins ça peut être stressant parce qu'au moins tu te dis ben c'est parfait, l'argent que j'avais prévu qui est à la bourse, puis je pensais sortir ça pour acheter une maison cet été, ben non, ça devait plus être à la bourse, là, ça fait longtemps, là. C'était pour rapper, ça aurait dû être planifié d'une autre façon, mais c'est ça que les gens essaient de faire par eux-mêmes.
Mais tu conseilles-tu aux gens d'entrer dans le marché pour ceux, mettons, qui ont envie de s'acheter ou tu sais, quelqu'un qui a un 200, 300, c'est pas beaucoup, là, ou 500 $ il y a du monde qui nous écoute, puis à chaque fois que tu viens, t'es fait stresser en disant je suis en retard. Quelqu'un qui t'écoute cette semaine, c'est-tu le moment de mettre un 100$ s'il y en a un?
Désolé. Ben oui, c'est le temps.
Ils font quoi? Ils appellent un conseiller financier?
Je vais te donner mon... Pas pour amener ça à moi, mais pour donner mon exemple personnel. Présentement, je suis encore en train d'investir, même si je suis à la retraite, là. J'investis présentement pour mon 65 à 70. Tout ce que j'investis présentement, c'est pour mon 65 à 70 parce que je planifie pousser mes pensions d'État jusqu'à 70 parce qu'eux autres sont indexés à vie. Fait que je vais y couler mon argent personnel puis je vais me servir de ces pensions-là bonifiées à 70, par exemple. Fait que j'investis présentement pour dans 10 ans. Mais si c'était pour dans 5 ans, j'irais all-in aussi. Ben all-in, il faut s'entendre, il ne faut pas être mal interprété, là. Mais si c'est pour le printemps de l'année prochaine, ou c'est pour cet automne, ou pour faire du rendement pour le party, peu importe, ou un voyage cet hiver, hey, là,
non,
c'est
là, on parle
d'auditeurs
qui se disent « J'ai rien, vraiment. Je commencerai, mais je n'irai pas toucher. »
Ouais.
Okay.
Pour la retraite, là, il parle... il parle pour la retraite.
Je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir, Pat, là, mais tu sais, planificateur financier, un bon comptable. Tu ne peux pas te passer de
essentiel.
Ça. Planificateur financier, bon comptable. Puis par la suite, si tu veux aller faire de la bourse, si tu veux aller t'amuser à la bourse, parce que je m'amuse à la bourse, là, ben tu prends un certain montant que tu auras établi avec ton planificateur financier.
Tout à fait.
Puis moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir mon chum Gaétan Royer de Cobalt Investissement qui va te donner les notions de base de la bourse et peut-être même te faire découvrir un nouveau métier qui est possible, c'est-à-dire day trader. C'est pas un métier qui est facile, mais augmenter tes connaissances. Pat l'a souvent dit, puis j'aime ça suivre Pat Raymond pour ça, là. Augmente ta valeur. Essaye d'augmenter tes connaissances. Fait que ce genre de petits cours-là à la bourse ou encore des cours plus professionnels chez Cobalt Investissement, ça peut te permettre de dire « OK, je vais embarquer sur la bourse, puis ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. »
Tu vas travailler pour toi, dans ton intérêt, en comprenant ce que tu fais.
Mais tu ne mises pas à 100% sur la bourse, parce que là, c'est là que c'est dangereux.
Bien, il faut diversifier d'abord, puis la bourse, ça peut être aussi des obligations.
Exact. Hein?
Le marché boursier a bien plus d'obligations que d'actions sur les marchés. Donc, il y a différents produits qu'on peut acheter. Ici, on ne le comprend pas bien. Allez voir un conseiller, d'aller chercher une formation. Et je trouve ça intéressant, je ne sais pas si on a encore du temps, mais la formation de Gaétan, par exemple, ou de bien d'autres, là, des formations de day trading, même si vous ne voulez pas faire du day trading, quelle belle façon de connaître les humeurs d'un marché, puis
c'est
connaître
ce que j'ai fait.
La façon d'interpréter, que ce soit le graphique ou d'aller dans le fondamental. Je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, là. Mais c'est une façon de savoir si le titre dans lequel tu investis, et ça répond encore à la question de monsieur ou madame qui a demandé, ben est-ce que le titre est bien valorisé? Est-ce que la valeur, le fondamental, est-ce que tu payes, je ne sais pas moi, 18 fois le cours bénéfice? Est-ce que tu payes 18 fois, 20 fois, 15 fois, 24 fois? Ou tu achètes comme Tesla qui est à, là, je vais dire n'importe quoi, mais autour de 150 fois les profits futurs? Fait que quand tu investis dans une entreprise... Le futur, les prochaines années, il faut tout évaluer ça de façon fondamentale. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, on s'en va dans un fonds négocié en bourse, si ça se trouve là, puis qu'on va aller vraiment aller chercher quelque chose qui est packagé, où on va avoir un peu d'ingrédients, où ça va nous donner peut-être pas des coups de circuit, mais avec un peu d'obligation de l'exposition internationale ou de l'exposition un peu US, puis tu vas avoir du Canada aussi. Et là, tu t'assis là-dessus 5 à 10 ans, 15 ans, tous les fortunes... Toutes les occasions d'affaires qui s'est retrouvées dans les différentes crises qu'on a eues dans les 50 dernières années, bien, c'est ceux qui ont de l'argent qui s'enrichissent. Pourquoi? Parce que moi, présentement, j'aimerais ça avoir un petit 100 000 de lousse, là, qui n'est pas investi, là, puis de l'injecter dans mes placements pour faire baisser encore plus les coûts, des coûts d'acquisition, puis d'aller chercher encore plus de rendement sur le rebond qui arrivera tôt ou tard. Mmh. Et le rebond, il est majeur parce que si vous manquez des rebonds, juste 4 à 5 bonne journée au bout de 10, 15, 20 ans. Des fois, c'est la moitié de votre rendement.
Oui.
Ces journées-là que vous avez manquées.
Puis lire des livres des gens qui peuvent vous inspirer. Moi, Warren Buffett est devenu un personnage pour moi qui est inspirant. Tony Robbins, quand il parle de bourse, je le trouve franchement intéressant aussi. C'est un motivateur.
Oui, c'est différent, mais oui.
C'est un gars qui est intéressant. Suivre des belles communautés comme Cobalt Investissement. Mm-hmm. Moi, je suis sur la communauté de Cobalt Investissement. Là. Écoute, c'est à peu près 400-500 personnes, 400-500 cerveaux qui travaillent à regarder ce qui se passe sur le marché. Puis parfois, ils te donnent des qui peut faire en sorte que ça va t'aider à faire des placements. Puis ta communauté aussi, financièrement parlant, podcast, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des gens qui posent des questions hyper pertinentes puis les gens s'entraident en dessous dans les commentaires.
Oui.
Ben, à gang, c'est nice, à gang, on a toujours raison. Hein? On peut se faire une tête avec plusieurs points de vue puis on peut réussir à se faire une tête parce qu'il n'y a pas nécessairement de bonne réponse universelle. T'sais, pour une autre personne, je vais lui dire, ben c'est pas le temps d'investir à la bourse. Ça fait 4 jours, tu dors pas. Là, c'est plus le temps. Là. Peut-être que tu n'étais pas fait pour ça aussi. Fait qu'il y a toute une question aussi émotionnelle. Fait qu'il faut se connaître. On veut tout faire de l'argent, mais est-ce qu'on est prêt à vivre toutes ces soubresauts,
ces sensations-là?
Et pour juste terminer, mais je pense beaucoup à nos gens d'affaires aussi qui vivent des incertitudes. J'en ai parlé dans mon podcast ce matin, puis c'est tellement important, je veux passer ce message-là. Nos PME qui vivent des incertitudes présentement, qui ont les États-Unis, par exemple, fournissent les États-Unis sur différentes pièces. Je pense à des compagnies de la bourse, entre autres, et peu importe, là. Plein de compagnies au Québec, des PME qui fournissent les États-Unis, qui, là, ils sont dans l'incertitude totale. Puis qu'est-ce qui va arriver? Puis est-ce que la relève? Puis est-ce que je vais pouvoir vendre mon entreprise? L'entreprise, as-tu perdu de la valeur? Tu sais, ça influence à bien des égards.
Ouais, ça, c'est pas drôle.
Les gens d'affaires, les investisseurs, et monsieur, madame, tout le monde aussi, qui verront peut-être des produits qui vont monter de prix. L'inflation et voir la récession, chômage, il y a plein de choses qui... une belle année en vue, hein?
On lâche pas, les amis. Pat Raymond, on te suit sur ton podcast Financièrement parlant podcast, puis on se reparle la semaine prochaine.
Absolument.
Salut, mon ami.
Merci, Pat.
On fait une courte pause, on revient.
Marceau le midi. Un show concis.
You know, and for sure, I think...
un show qui va droit au but.
I don't have a time limit.
Un show qui se perd pas.
Very good. I think he brings a lot.
Marceau le midi.
Actuellement, sur Québec, on est autour de quoi? 2 degrés. On nous annonce de la neige pour cet après-midi. Ça se peut que ça tombe en pluie entre 2 et 4 cm, des rafales à 60 km/h. Pour ce qui est de ce soir, entre 2 et 4 cm annoncés, minimum de moins 8 degrés. Et demain, mercredi, le retour au calme, ensoleillé avec un maximum de plus 1 degré. On va y aller vite pour l'entrevue parce que ça a l'air que c'est un gars pressé. D'ailleurs, il n'a même pas pris le temps de manger. Il est devant nous autres puis il mange ses affaires. Je pensais que c'était un gars qui faisait attention à sa santé. Là, il y a de l'air quand
même. C'est un sandwich.
C'est un sandwich. Poulet, puis c'est quoi le
c'est
avocado?
C'est du bocconcini aussi dedans, je pense.
Puis avocado, c'est pas si pire.
Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur, salut!
Bonjour!
Je suis content de te voir, ça a l'air que t'es surexploité ces temps-ci. Là.
T'es attendu ailleurs, je pense. Veux-tu qu'on appelle pour dire que tu vas être en retard?
Oui, qu'est-ce qui se passe?
C'est pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on a annoncé que le Parti conservateur du Québec propose de sortir le Québec de la bourse sur le carbone.
Ouais.
Pourquoi?
Ça intéresse personne, ça, Éric.
Non, ça intéresse personne.
Ça touche
quand
personne.
On le mentionne comme ça.
Ben oui.
Mais quand je vous dis que présentement, il y a des stations à Montréal, un Ultramar qui charge 1,67 le litre, puis qu'à Hawkesbury, pas très loin, une heure d'auto, il est à 1,19 du côté ouais. ontarien.
1,08 à cette heure-là, ça a descendu.
Non, ça descend. Bon, ouais. C'est ça. Fait que je vous parle du fait que vous payez beaucoup trop cher votre essence. Depuis le 1er avril, c'est pire, parce que le Canada a aboli la taxe sur le carbone. Il reste juste le Québec qui continue à taxer le carbone. À cause de la bourse du carbone, on est le seul État avec la Californie qui fait partie de ça. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut sortir de ça au plus sacrant. On n'a pas les moyens de payer 30, 40 sous de plus que les Ontariens ou que les gens au Nouveau-Brunswick chaque fois qu'on achète un litre d'essence. Ça peut représenter 15, 20, 30 piastres sur le plein d'essence. À la fin de l'année, on calculait que ça pouvait même représenter 1 500 piastres pour une famille moyenne de plus de taxes sur le gaz. À un moment donné, il y a des limites.
La frontière Québec-Ontario est à quel endroit, là?
Bien, la rivière des Outaouais.
Gatineau, fait que tu as ouais. juste à traverser la rivière.
Eux autres, ça va bien.
Ouais. Fait que ça veut dire que si je suis au Québec, je paye 20 cents au minimum de plus que si je traverse le pont qui est là, je suis rendu à 1,08 $.
Essaye de convaincre le monde d'acheter du gaz.
À quel 50 point fois. C'est payant pour le gouvernement en place de garder cette taxe carbone-là?
Bien, en fait, c'est pour bien paraître parce que l'argent qui finance la bourse sur le carbone s'en va directement dans le fonds vert. Au cours des 10 dernières années, les Québécois ont versé 10 milliards de dollars. OK? On a payé 10 milliards de plus de taxes sur l'essence que les autres, les seuls avec les Californiens qui ont fait ça sur le continent, pour que ça l'aide pour financer des autos vertes, des toutes sortes de projets. Il y a des projets même bidons, là. Aider Air Canada. Air Canada reçoit des millions pour mettre des ailettes sur le bout de ses ailes d'avion. Il y a toutes sortes d'affaires de projets bizarres.
Il y a plein
bizarres.
De projets pilotes. Puis celui-là, le plus fucké qu'on avait entendu parler, c'est il y a de ça quelques années.
C'est-tu égoré?
Financer.
Il décroche pas, je te dis.
Financer une clôture électrique au Gabon dans un parc de gorilles. J'aime bien gorilles, j'aime bien le Gabon, là, mais on peut-tu s'occuper de nos problématiques?
Mais ça, c'est un peu ridicule. Puis c'est comme les patinoires réfrigérées qui ont été financées avec le dit fonds vert pour ici, à Québec, dans la ville de Québec, avec Bruno Marchand. Mais si c'était des produits et des projets qui intéressent puis qui ont un impact crédible dans le quotidien des gens, est-ce que tu serais d'accord avec cette taxe?
Je suis pas d'accord pour que le Québec paye beaucoup plus que les autres, un. Deuxièmement, 10 milliards de dollars en 10 ans. Dans les 10 dernières années, c'était les gaz à effet de serre, là, les GES qu'on voulait réduire. Le Québec a réduit ses GES de 0,7 %. Ça
donc
a coûté 10 milliards. 0,7 % sur le bilan du Québec, si vous le prenez à l'échelle planétaire, c'est une contribution de 0,001 %. C'est 1/1000 de 1 %. des GES, puis c'est les Québécois seuls qui ont payé 10 milliards.
Pour toi, c'est une façade, c'est quelque chose de politique.
C'est plus qu'une façade, c'est un vol. C'est, je veux dire, ils sont venus nous chercher 10 milliards dans nos poches,
dans nos poches,
strictement pour rien. Puis là, on continue, puis on paye, on est les dindons de la farce. Là. Moi, je m'excuse, mais quand je vois du monde payer 20, 30 cents de plus, 40 cents de plus au Québec que partout ailleurs au Canada, je me dis, coudonc, c'est quoi le problème?
Mais ça, j'ai l'impression que ça peut devenir un bras armé du gouvernement pour se faire du capital politique.
Mais c'est sûr, eux autres, ils donnent des chèques. Monsieur Fitzgibbon, rappelez-vous qu'il aimait ça, distribuer des chèques
mais
à des entreprises.
Mais ça leur
donne-tu là?
Quelque chose de plus? Je t'explique.
Mais
souvent,
verts.
Mais souvent, il y a des politiques, justement, dans lesquelles si tu adhères et que tu fonctionnes et que tu mets en place une stratégie comme, bon, 10 cents de plus sur l'essence, tu vas pouvoir avoir des passe-droits dans des négociations. Parce que tu contribues, tu fais partie de la gang. Est-ce que c'est la même chose?
Non, c'est une opération de marketing politique. D'ailleurs, vous remarquerez, les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale sont tous d'accord.
Ouais.
Ils sont tous unis pour que vous payiez beaucoup plus cher votre gaz que tout le monde au Canada pour bien paraître. Parce qu'ils ont peur de se faire accuser, comme je vais l'être puis comme je le suis souvent, de dire que tu es contre l'environnement. Dès que tu dis que tu veux que ça aille du bon sens puis qu'on paye la même chose que les autres, bien là, ils disent que c'est contre l'environnement. Je m'excuse, là, mais comment ça se fait que tout le reste de la planète est contre l'environnement, sauf nous autres?
Est-ce que tu serais d'accord s'il y avait des projets qui seraient intéressants, que tu trouverais crédibles dans l'utilisation de ces fonds-là?
Mais pourquoi le Québec paierait seul? L'environnement n'arrête pas aux frontières du Québec.
Donc toi, tu es en désaccord parce que c'est que le Québec en ce moment qui est concerné.
Exact. Je suis contre le fait que les Québécois soient plus taxés que les autres.
Parfait. Le fonds vert, on le garnit comment devant le cas où on enlève cette fameuse taxe carbone-là?
D'abord, le fonds vert, il est trop capitalisé. Ils ont tellement ramassé d'argent, ils vous ont tellement taxé qu'ils ne savent plus quoi faire avec l'argent. Il n'y a pas assez de projets pour dépenser l'argent. Ils ont 1,8 milliard de dollars de surplus qui dort dans le coffre. Puis ça, c'est en incluant le fait qu'ils ont donné de l'argent pour une clôture de gorille au Gabon. Là. Mais ils sont plus capables d'en trouver. Là. D'après moi, il n'y a plus de safari au Gabon. Qui ont besoin de clôture.
Ben, une fois que tu t'es fait pogner à financer une clôture pour les gorilles au Gabon, là, tu dois dire à tes fonctionnaires, on peut-tu aller jouer ailleurs?
Ben, je pense que c'est ça qui est arrivé, mais là, ils vont plus jouer nulle part parce qu'ils n'en trouvent plus de projet. Donc, présentement, le fonds vert qui continue à vivre de ça,
ouais,
mais qui arrête de piger dans le portefeuille des automobilistes
Est-ce
québécois.
Que toi, tu le cancelles, le fonds vert?
Ben, c'est-à-dire que on arrête de le financer. Ce qu'on fait à long terme, on verra. Là, il y a encore 1,8 milliard qui dort dans un coffre.
Donc, il est gelé.
Mais il n'est pas gelé.
Sous
il est pas gelé. Là. Il n'est pas gelé. Là. Il attend d'avoir des projets.
Non, non, mais toi, sous ta gestion, il serait un peu gelé. On irait stand-by.
Ben, je pense qu'il faut avoir un débat sur ce qu'on fait avec le fonds vert. Là, parce qu'on pourrait aussi le récupérer puis le mettre dans le fonds capitalisé puis de réduire la dette. Là. Les Québécois, cette année, là, on a le pire déficit de notre histoire. 13,6 milliards de dollars. On le prendrait le 1,8 milliard ou 1, je sais pas quoi, le 9, pour enlever sur le 13,6.
Oui. Puis on le met à quel endroit?
On le met à quel endroit?
Cet argent-là?
Mais il le mettait sur la dette.
Oui, tu le mets sur la dette, directement.
C'est ça qui est,
ouais. T'appelles ça la campagne? Moi, c'est le nom de tes campagnes. C'est juste hallucinant. Vous êtes des génies. C'est « Prends ton gaz égal ».
Bien, « Prends ton gaz égal », c'est deux choses. D'abord, c'est dire à Legault, « Prends ton gaz égal », en voulant dire « Arrête de nous taxer comme des dingues ».
Ouais.
Deuxièmement, « Prends ton gaz égal », c'est aussi dire un message à tous les automobilistes. On veut payer le même prix égal que partout ailleurs au Canada. On veut que notre gaz soit égal. Donc, c'est un peu ça. C'est un clin d'œil. C'est une expression très québécoise, très familière, que tout le monde comprend.
On t'écoute-tu ou tu fais de la politique en ce moment? Tu veux amener la discussion, mais tu sais très bien qu'il n'y a personne qui va se tourner vers toi à l'Assemblée nationale en ce moment pour jaser de ça.
Bien, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Parce que combien de temps... Là, ça fait une semaine que les Québécois sont surtaxés sur l'essence par rapport au reste du Canada. Je sais pas, tu sais, à un moment donné, là, ça a un impact sur les travailleurs, ça a un impact sur les entreprises. On est en train de se mettre dans une position de désavantage, puis on est en guerre commerciale. Là. On n'a pas besoin d'avoir des surtaxes par-dessus les autres. Là. On est dans une époque où on devrait serrer les coudes pour justement être plus solidaire. Fait que je pense qu'ils ne diront pas que c'est le Parti conservateur. Comme Carney, quand il a baissé la taxe sur le carbone la semaine passée, pensez-vous qu'il l'a fait de plein cœur? Ben non, c'était l'héritage du Parti libéral. Ils l'ont fait parce que ça fait 3 ans que Pierre Poilievre martèle qu'il faut baisser la taxe sur le carbone, puis que l'opinion publique au Canada anglais est gonflée à bloc, puis elle a obligé même les libéraux à reculer. Et c'est la même chose qu'il faut qu'on fasse pour faire reculer la CAQ.
Trouves-tu ça dur ces temps-ci avec Donald Trump qui prend toute la place, avec la campagne électorale qui prend toute la place? Trouves-tu ça dur? T'étais pas à l'Assemblée nationale. Faut que tu te battes plus fort que les autres pour te faire entendre constamment.
C'est sûr que c'est toujours un défi pour nous autres, là, Trump ou pas.
Cela
étant dit, c'est sûr que je voyais ça en fin de semaine. Là, les gens manifestent contre Trump dans les rues, mais le fait qu'on se fait voler à chaque fois qu'on achète un litre d'essence, il n'y a personne qui même le sait.
Ouais.
Il y a quelque chose d'un peu frustrant de voir qu'on s'intéresse à quelque chose des fois qui est loin de notre réalité, puis on ne s'intéresse pas à celui qui vient piger direct dans notre portefeuille. Et moi, mon objectif, pour ne pas dire mon défi, c'est de m'assurer que les gens se préoccupent de celui qui va piger trop d'argent dans leur portefeuille.
En même temps, tu as posé la question à Éric Duhaime. Je veux dire, il a toujours jappé fort. Là. Il n'y a pas besoin.
T'es-tu en maraudage présentement parce qu'on regarde. Là,
tu veux être candidat?
La plupart.
La dernière fois, tu m'as fait quatre fois en ligne. On a dit pas non une première fois à Éric Duhaime. Faut que tu dises quatre fois. Ça fait une couple d'années, d'ailleurs.
Dis-les pas parce que Pascal n'a jamais été appelé et elle va te sentir mal.
Je vais me sentir mal. Je pense qu'il y a une évidence en arrière de ça.
T'es-tu en maraudage actuellement? Parce qu'à la Coalition Avenir Québec, là, les députés puis les ministres regardent actuellement les intentions de vote dans leur comté. Puis surtout dans la grande région de Québec, là, tout le monde perd sa job à la CAQ.
C'est clair.
Tu jases-tu de ça avec eux? Est-ce
un peu, mais
téléphone qui se fait?
Ma priorité présentement, là, c'est qu'il va y avoir une élection partielle dès l'élection fédérale finie dans la circonscription d'Arthabasca. Et la dernière fois, le Parti conservateur du Québec a fini deuxième. Et c'est une bonne circonscription. C'est dans le centre du Québec. C'est Victoriaville. Et je pense que c'est là qu'on va mettre nos gros efforts dans les prochaines semaines.
Là, tu vas-tu déménager, là?
Bien, j'y vais souvent, quasiment toutes les semaines, en fait. Je vais à Victo dans les alentours, là, la MRC de l'Érable. Il y a 16 municipalités dans le comté.
Mais tu te présentes là?
Bien là, écoute, on ne sait pas encore qui va être candidat, mais on est en train de travailler le terrain. C'est l'important que ce soit moi ou que ce soit Tarek Hénoud, qui était notre candidat la dernière fois.
Ouais.
C'est pas important. Là, ce qu'on veut présentement, c'est de s'assurer que l'organisation soit prête puis que quand ils vont déclencher, on part.
Mais toi, tu veux rentrer, c'est sûr que tu vas être stratégique comme n'importe quel politicien, on s'entend. Mais est-ce que, Éric, tu as l'ouverture de jaser avec nous d'où tu es mal reçu et où tu es bien reçu?
Dans
où est-ce que tu vois... Non! Wow. Dans la population.
J'aurais aimé ça.
Parce que tu en parleras après. Nous, on a encore beaucoup de temps pour toi, là, vraiment. On peut se rendre à 14 heures. Il n'y a pas de problème, Éric. Mais parle-nous d'où tu es bien reçu et tu es moins bien reçu.
Bien, écoute, c'est sûr que pour les conservateurs, c'est vrai, pas juste pour les conservateurs du Québec, même les conservateurs fédéraux, vous le voyez dans les sondages présentement, puis on n'a jamais vu ça, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça politiquement, même ailleurs en Occident. C'est beaucoup chez les personnes plus âgées que c'est plus difficile. Puis on le voit, s'il y avait une élection juste chez les jeunes, le Pierre Poilievre, il y aurait une vague conservatrice comme jamais
c'est
au Canada.
C'est que les personnes âgées ont peur de perdre leur acquis.
Puis,
mais toi, mettons.
Mais c'est la même chose avec le Parti conservateur du Québec. Ça a été même la même affaire la dernière élection. On aurait eu plusieurs députés d'élus. Si, par exemple, juste le vote des RPA ou des CHSLD n'avait pas compté. Il y a plusieurs circonscriptions où on gagnait les comtés. Là.
Est-ce que, c'était-tu plus facile en région?
C'est sûr que...
Ça l'est-tu encore?
Mais ça dépend des... Québec, c'est pas une région. Pour moi, c'est pas une région. Là, c'est la capitale nationale, puis c'est ici qu'on performe très bien. Donc, c'est pas une question de région versus ville. Mais c'est sûr que Montréal, pour nous autres, est un peu plus difficile.
Qu'est-ce qu'on
comme
te
tous
demande?
Les partis de droite.
Qu'est-ce qu'on te demande quand on veut discuter avec toi? Là? Ils s'attendent à quoi d'Éric Duhaime puis du Parti conservateur du Québec?
Un exemple, là, c'est l'exemple d'aujourd'hui avec la bourse sur le carbone. Les gens à Montréal, quand tu leur parles de ça, ils disent « Mais oui, mais t'as juste à prendre le métro. »
Comme si la planète
mais
était
c'est ça.
Montréal.
Comme si tout le monde avait le métro au coin de la rue de chez eux, puis c'était un choix de prendre son char pour se déplacer du point A au point B.
Puis, c'est pour ça qu'une vaste majorité des chroniqueurs montréalais puis une vaste majorité des animateurs montréalais disent « Mais pourquoi ils veulent pas de tramway à Québec? » C'est parce que c'est pas adapté comme Montréal est adapté pour le métro, exemple, ou pour le train de banlieue.
C'est exactement ça.
Ils ont comme une autre vision, mais putain, on va les inviter à descendre peut-être un peu plus souvent à Québec pour voir comment ça se passe. OK. Fait que là, des élections partielles, ça s'en vient bientôt.
Après l'élection fédérale.
Ma question, c'est le téléphone sonne-tu pour les prochaines élections?
Un peu, mais écoute, il reste encore un an et demi. Normalement, ça se fait dans la dernière année. T'sais. Puis surtout que là, toute l'attention puis l'intérêt était vers le fédéral. Fait que je pense qu'un coup que l'élection fédérale va être finie, là déjà, on va pouvoir regarder qui a gagné, qui a pas gagné. Y en a-tu parmi ceux qui avaient le goût puis qui ont pas été choisis, qui ont encore le goût puis qui peuvent s'investir à un autre niveau?
Ah ouais, tu vas aller faire du repêchage.
Fait qu'il y a d'autres types de maraudage qui va pouvoir se faire à ce moment-là.
Claire Sanson, c'est fini pour vrai, ça?
Non, Claire est encore dans le parti. J'y ai encore parlé récemment puis elle va sûrement être à nos prochains rassemblements conservateurs.
Est-ce que tu as l'intention de rencontrer Sam Ahmad dans les prochains jours?
Je l'ai rencontré il y a déjà quelques mois. Peut-être, oui, si mais il a le goût de me parler. Moi, j'ai le goût de jaser. J'ai été très heureux de lire qu'il est contre le projet de tramway présentement sur la table.
C'est ce qui le différencie du maire Marchand actuel.
Je pense que ça, c'est important pour tous les candidats à la mairie qui aspirent à devenir maire de Québec de ne pas appuyer un projet qui n'a pas l'approbation de la population. Puis j'ai été bien inquiète de voir que la réponse de l'administration Marchand, ça a été de dire on a signé des contrats, puis on a mis des pénalités à 300 quelques millions pour être sûr que le projet va se faire. C'est comme une trappe qu'on a faite, mais c'est pas une trappe à Saint-Mamad qu'ils ont faite, c'est une trappe aux contribuables de la ville de Québec.
Exact.
Et ça, c'est inacceptable. Si vous aviez l'intention de voter pour Bruno Marchand, juste ça, c'est une bonne raison de jamais faire confiance à ce gars-là.
Parce qu'il voulait vous bloquer.
Il veut faire quelque chose contre votre volonté. Il veut vous rentrer dans la gorge son projet sans acceptabilité sociale. Puis ce gars-là, je vous rappelle, il a été élu en disant que le tramway, il était contre. Là. C'était Mme Savard qui était pour aux dernières élections municipales à Québec. Lui, il disait qu'il fallait qu'il y ait 10 projets de modification. Il n'y en a eu aucun. Puis aujourd'hui, il est en train d'essayer de signer des contrats pour essayer de nous le faire payer, qu'on le veuille
ou
non.
Mais y a-t-il quelque chose avec le provincial de ce que tu vois? Pour avoir un changement de cap et forcer tout ça et maintenant être pro-projet.
Je comprends pas ta question.
Est-ce que tu as l'impression que le provincial poussait en ce sens-là?
Non, je pense pas. Je pense pas, mais le provincial, c'est dur à suivre. Regarde ce qui est passé dans le dossier du troisième lien. Je veux dire, ils ont dit tout et son contraire, et sur le dossier du tramway, et sur le dossier du troisième lien.
Éric Duhaime, félicitations pour ta campagne. Prends ton gaz égal, parce qu'actuellement, je regarde l'essence en Ontario, le prix du litre est de 1,08 $ et 3 minutes plus loin, si tu traverses le pont l'autre côté, puis tu te ramasses au Québec, il est autour de 1,40 $, 1,50 $. Fait que c'est épouvantable, la différence.
Un matin, j'ai gazé ici à Québec, 1,58 $.
Je te remercie pour ta contribution.
Bonne journée, merci tout le monde.
Embrasse-la, ta pancarte.
Bye-bye. 13h14, nous, on s'arrête, on vient tout de suite.
Marceau, le midi. All right.
Pascal qui me dit, pendant la pause, je veux pas te juger.
Non, mais t'as le droit, là. C'est parce que c'est difficile, des fois, à s'habiller, je comprends.
Ouais, ben en fait, j'ai l'impression que c'est plus dur pour les filles que pour les gars. Mais pour les gars, moi, j'ai pas fait la transition... m'acheter des pantalons, exemple, sur Amazon. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais dans les boutiques, puis là, je sais que mon tour de taille, c'est 30. Fait que là, je prends tout ce qui est 30, 32, exemple, puis je m'en vais dans le vestiaire, puis j'essaye ces jeans-là. Puis je trouve ça intéressant. Là, on a toujours magasiné comme ça. C'est juste que là, une fois de temps en temps, tu vois des beaux deals passer sur Amazon, puis là, ben c'est 5 paires de jeans pour 100$, puis là, c'est écrit... 30-32, là, si c'est taille américaine, c'est ici. Si c'est taille des Chinois, c'est ça. Si c'est taille de la Côte d'Ivoire, ben là, ça prend plus de place pour la poche.
Ah, mais ça, attends, c'est tellement tannant pour les femmes. Parce
c'est qu'on le sait pas.
Il y a quelque chose qui s'est passé. Premièrement, là, au courant des années, les tailles diminuent constamment. Okay, mettons que tu portais du 38, t'es rendu à 34. Et si tu portais du 28, t'es rendu à 34. Tu te sens tellement prise de poids constante parce que ça diminue là, les tailles, là, c'est fascinant. Autre affaire, je ne sais pas si vous le vivez, vous les hommes, là, c'est de magasin en magasin, c'est différent. Fait que dans un magasin, toi, tu dis, moi, je prends le 30, puis ça fait, puis c'est correct, je me casse pas la tête, je sais que j'arrive à la maison.
Mais c'est 30 américains.
Écoute, d'un magasin à un autre, nous, tu peux avoir du 28 ou encore du 30 ou encore... Ça se joue, là, c'est incroyable. Tu peux pas juste pogner ta paire de pantalons.
Il y avait une boutique à Place Laurier, je sais plus, ça était encore là. Je pense que c'est fermé depuis une couple d'années, là. Mais eux, c'était juste des vêtements italiens.
OK.
Fait que, si tu portais, mettons, du médium américain, ben du médium italien, c'était comme du petit.
Je comprends.
Ça te faisait pas.
Ouais.
Fait que, mais tu sais, nous autres, les gars, ça a l'air d'être moins difficile. Mais c'est juste que là, à un moment donné, t'as comme... des pantalons, c'est écrit 30-32.
Ouais.
Mais là, c'est-tu 30, la largeur puis la longueur? Comment ça fonctionne?
Ton 30, c'est ton tour de taille d'habitude, je pense, pour les gars. Là, si je ne me trompe pas, c'est la même chose que pour les femmes. La seule chose, c'est que des fois, il y a des vêtements qui ont une coupe différente. Puis là, il faut vraiment que tu te mettes à mesurer tes cuisses avec un galon ou des trucs comme ça. Puis avant que la mode corporelle de la femme soit celle qu'on vit en ce moment, bonne fesse, t'sais, bonne chair là, dans le bas puis tout ça... Hey, c'est pas toujours facile. Ça. Moi, j'ai une petite taille, puis j'ai des fesses. Soit que je flotte la taille, soit que je rentre pas du pantalon en bas. C'est vraiment,
Tu une fourchette pour mettre ton zipper? Là,
non, je sais que c'était vraiment populaire dans le temps des cheveux au spray net en l'air.
Ouais.
Hein? Ça, c'était l'époque.
J'ai rencontré Hugo Girard il y a de ça quelques mois. J'avais fait un marceau le soir avec lui, puis j'ai un de mes chums qui est inspecteur en bâtiment, Jocelyn Lusignan. Je le salue, d'ailleurs, s'il nous écoute. Tu sais, c'est des gars qui sont de forte corpulence. Mm. Je veux dire, ils sont bâtis comme des chevals.
eux autres, se trouver du linge, c'est compliqué.
Ils peuvent pas s'habiller partout. Une fois que tu trouves ta boutique qui est appropriée à ton corps, des fois, tu restes là, mais tu peux pas aller dans d'autres styles. C'est un peu tannant.
À Cardi, il y avait un élève, mesurait 6 et 3. Et... Il avait 14 ou 15 ans.
Un élève.
6 et 3, tu sais, ses souliers, là, c'était comme des raquettes. Je pense qu'il s'habillait chez Maximus, ça se peut-tu?
Ah, c'était fait pour lui, plus gros.
Puis
je sais
pour
pas si
des
existe
souliers,
encore.
Fallait que ses fasses venir, là, parce que sinon, il pouvait pas aller chez Sport Expert puis acheter sa paire de souliers. Il n'y en avait pas. Là.
Ah ouais, hein?
De mémoire, c'était du 14 ou du 15.
Je trouvais jamais quelque chose. Fascinant, ça. Mais j'avoue que tu commences pas à faire une chaîne en série d'un jean si tu sais qu'il y a 3-4 personnes qui vont rentrer dans cette taille-là.
Ouais.
Fait que tu as une boutique spécialisée. 30 fois 32. 30 de taille, 32 de longueur.
Ben,
des hommes qui t'aident.
Bon, c'est bon. Ça. 30 par 32.
Oui. 30 ta taille, 32 ta longueur. C'est qui t'habillait dans les dernières années, Yannick?
C'est moi. C'est juste que je garde mon linge longtemps.
OK. T'avais oublié. Dis, t'as eu le temps d'oublier la taille que je porte.
Non, mais tu sais, je magasine. Mettons, faire venir du linge chez nous, là, ouais. D'une boutique que j'ai vue en ligne, je le fais pas souvent. Je le fais quand je vois des gros deals, mais j'aime bien encourager nos marchands locaux. Tu sais, des fois, je peux aller chez Winners ici, ouais. Ou des fois, je peux aller aux Galeries de la Capitale ou à Place Laurier. Puis là, je rentre dans les boutiques puis j'essaye le linge. Tu sais, mais on dirait que je suis un peu archaïque dans ma façon de rechercher mon linge. Mais
on dirait.
Ça fonctionne comme ça. Tu sais, la paire de pantalons, je prenais du 30, je prenais du 32, je prenais celui-là qui me faisait le mieux, puis je repartais avec. C'était pas compliqué. Mais là, quand tu vois là, les différences de grandeur et tout ça, tu sais, pour moi, c'est ça paraît compliqué, mais pour des gars comme Hugo Girard et tout ça, ça doit être un enfer.
Ouais, ben, Maximus doit rouler juste pour ces gars-là, là, très
les
honnêtement.
Les cuisses à Hugo. Là,
non, ça n'a pas de bon sens, c'est mon tronc complet. Pense-y. On fait même pas une blague en ce moment. Tu l'as reçu dans Marceau le soir cette année. Sa cuisse, c'était mon tronc.
Tu sais, son verre d'eau, là.
Dans sa main, ça devait être...
Ouais, puis quand tu leur donnes la main, c'est impressionnant. Mm-hmm. Moi, je suis quand même de taille moyenne. J'étais à 5 et 11, là, 190 livres. Fait que je suis de taille moyenne. Puis c'est pas souvent que je me sens très petit.
Là, oui.
Mais quand t'es à côté d'un gars comme Hugo Girard, quand t'es à côté d'un gars comme Jocelyn Lusignan, c'est des hommes forts.
Oui.
Ils sont bâtis comme des chevaux. Ils te donnent la main, t'as l'impression d'être un enfant de 4 ans.
T'es perdu dans sa main du jour au lendemain. Moi, j'avais peur avec Hugo Girard qui me la casse. Je pense pas que j'y ai donné. J'avais vraiment peur de sa poigne.
Tu voulais pas lui donner la main parce que tu avais peur.
Oui, j'avais peur de sa poigne. Il y a du monde de même. Les poignées de main, là, on va faire juste un aparté. Là. Une poignée de main qui est molle gâche absolument tout d'un individu, d'une personne. Une poignée de main molle et moite fait mal vivre la personne à laquelle vous la donnez.
Ouais, tout ce qui est mou, d'habitude, ça...
Ça devrait être enseigné.
On se sent mal à l'aise.
J'ai compris ta joke, mais je lui donne aucune importance.
Non, mais c'est vrai. Tout ce qui est mou, je veux dire, la personne te donne la main.
Mais je préfère que dans certaines situations, il y ait quelque chose de mou, là.
Puis ça foire.
Oui.
Je parlais pas de ça, moi.
Ah oui,
c'est ça. Tu donnes la main, ça foire. Ou encore, c'est humide.
Ah, mais c'est ça. Moi, t'es molle. Puis j'ai connu quelqu'un récemment qui m'a donné la main du bout des doigts. Faut que ça soit enseigné. C'est pas juste une question d'affaires. C'est une question de prestance.
Je vais te faire un aveu. Tu sais, de par notre métier, on croise souvent des gens. Bon, on donne souvent des poignées de main, là.
Oui.
Puis des fois, j'y réussis pas toutes, là. C'est quand ça va vite, là.
Hey, salut, oui, salut, donne-la-moi à voir.
Ben là, t'as peu, là. On se donne-tu vraiment la main?
Ben oui, c'est la seule chose qu'on va se donner. OK, c'est correct.
C'est correct, oui, oui. Bon. Mais des fois, t'arrêtes la poignée de main.
Ben oui, mais là, là pas là, à ce point-là.
La personne s'en va, puis là, t'as juste le goût de dire, viens ici, il faut que je reprenne ma poignée
oui,
de main.
Oui, parce qu'elle a part avec l'idée que t'as une
parce
poignée
que
de main
souvenir de
épouvantable.
Ma main,
mais après, t'es un peu plus forte, je te le dis, là. Vraiment, là, moi, j'aimerais ça donner des cours là, de
mais
poignée de main.
Mais quand tu donnes la main à des femmes, il faut que tu fasses attention.
Ben oui, mais je te dis pas, casse ma main. En tout cas.
Oui, mais nous, on est tellement forts, les hommes. Faut qu'on fasse attention. Hey,
Yannick,
délicatesse. Oui.
Dans les dernières heures, il y a eu deux programmations de festivals qui sont sorties.
Oui.
Un des plus hauts festivals, je trouve, qu'on a, honnêtement, qui est connu peut-être un peu trop maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens. Puis je dis ça pour mon plaisir personnel, c'est le festif de Baie-Saint-Paul. T'es-tu déjà allé te promener dans le temps du festif à Baie-Saint-Paul?
Non, mais toi, tu m'en as parlé, fait que j'ai eu l'impression
de le vivre
été.
Un peu.
Parce que tu y étais, hein?
Oui, l'année passée, c'était ma première fois, puis je capote, moi, sur ce qui anime Baie-Saint-Paul pendant cette fin de semaine-là. Ils ont annoncé des grosses têtes d'affiches. Ça me fascine à quel point cette année, l'an dernier, si tu veux du spectacle, t'en as pour ton argent, peu importe où. Ariane Moffat, Paul Piché, Voivode va être là-bas. Bon Enfant, Clay and Friends, qu'on passe ici sur les ondes de Boulevard 102.1, entre autres. T'as du monde, là, au pied carré. Geoffroy, tu connais-tu le gars? Ça te dit rien?
Non.
Vraiment, vraiment très, très, très bon. Puis t'as Chose Sauvage. Mais tu sais, ça va dans le... festif, là, autant des petits artistes émergents que des gros artistes qui vont prendre les scènes lors des soirées importantes, mais t'as des pop-up un peu partout. C'est un gros festival à grandeur de Baie-Saint-Paul, puis t'as aussi Cigale qui est sorti, celui à Baie-de-Beauport, là, qui clôture l'été en août.
Celui-là, il est très cool, là, de par sa de son positionnement.
C'est extraordinaire. T'es à la plage, t'arrives, t'es en maillot, pas grave, t'es en short, pas grave, t'es habillé un peu... C'est tellement le fun. Puis aller aussi, genre d'expérience de food truck avec les activités dans ta journée. Tu peux te faire un pique-nique, puis après ça, tu te retournes, puis tu as un show. Il y a deux scènes qui s'alternent. Ça veut dire que tu as toujours un spectacle qui est en cours. 8, 9, 10 août prochain, c'est qui? Grosse tête d'affiche? Half Moon Run.
Ah oui?
Si tu as un show à voir et que tu n'as pas encore vu, ils avaient foulé la plus grosse scène du festival d'été de Québec. Trois gars de Montréal qui te donnent un show de qualité supérieure. Quand tu cherches de la musique bien faite, bien exécutée, travaillée musicalement ailleurs, Half Moon Run, de les avoir encore dans des festivals comme à la Baie de Beauport quand ils sont en train de remplir des salles puis se faire connaître aux États-Unis, tu ne passes pas à côté de ça. As your head turns full circle, ils ont sorti un nouvel album cette année.
Tout relax comme ça?
Non, ben t'as de tout, mais je te dirais que c'est dans le beat et le mood quand même très musical.
Ok, si je vais voir celui-là, ça c'est Need It.
Ouais, ça c'est très relax. Mais celle-là, là. La
c'est de la musique pour faire l'amour.
C'est sûr que c'était tout le monde.
Ça dépend comment tu fais l'amour aussi.
So, Ice Baby, c'est peut-être pas le même concept.
C'est peut-être que la fille te dise « accélère un peu ». C'est peut-être un peu trop lent.
Mais là, tu fais vraiment l'amour, mettons.
Ouais, c'est ça. Okay. Après ça, « Back on the Road ». OK, wow, OK.
Nouvel album qui est sorti cette année, assurément qu'ils vont faire leur pièce, puis ils commencent à vouloir se faire connaître aux États-Unis. Il était à Bonnaroo Festival à Nashville l'an dernier. Il y avait du monde partout au Québec qui était descendu, un genre de petit regroupement ici, petit regroupement là, puis ils jouaient sur une scène que tu aurais vu, mettons, à Expo Québec, là, en dessous d'un chapiteau, entre deux hot dogs. Mais c'est beau de voir qu'ils sont en train d'essayer de percer le marché américain. Fait qu'allez voir les programmations après le Festival d'été de Québec, celle de Cigale à la Baie de Beauport fin août, et celle du festif est sorti dans les dernières heures. Il y en a en masse à se mettre sous la dent. Puis c'est, sans parler de Trois-Rivières, ce qui nous attend, c'est du Billy Talent au pied carré. Yes! Il y en a partout.
All right. Hey, gros match de 4 points ce soir, Pascal. Si tu veux écouter la télé, là, puis voir de la bonne télé, c'est le Canadien qui affronte les Red Wings de Détroit qui seront au Centre Bell. Le Lightning qui a donné un bon coup de main au Canadien hier. Victoire de 5-1 sur les Rangers de New York. Donc, on est toujours dans les séries. Parlant du Canadien, le Canadien qui s'est entendu ce matin sur les termes d'un contrat d'entrée de 3 saisons qui va débuter en début de saison prochaine avec l'attaquant format géant. C'est un gars de 6-5, un gars de 19 ans, Tyler Thorpe.
6-5?
Oui, une belle grosse machine. 215.
Chez Maximus, lui, qui s'habille.
215 livres. C'est un attaquant en 68 matchs avec les Giants de Vancouver dans la WHL. 27 buts, 25 passes pour un total de 52 points. C'est probablement un gars qui va faire la Ligue américaine l'année prochaine, mais quand même, du poids lourd chez le Canadien. OK, Lou, juste avant de terminer puis de passer en musique, les amis, juste vous parler des promotions qu'on a à la station. Le fameux Rock and Ball, c'est parti depuis déjà quelques jours. Ça continue toujours et demain, à surveiller dans Rage Against le matin, on va faire tirer 4 pneus d'été. C'est une valeur de plus de 100 000 $ grâce à Nokian Tires et Dernay Pneus et Mécaniques. Mais pour la promo, en général, le Rock and Ball, c'est officiellement lancé. La partie rock, c'est 2 billets pour le nouveau show de Linkin Park le 1er août au TD Garden avant même leur passage au Québec. Le côté ball, ça va être 2 billets pour les Red Sox au célèbre Fenway Park le 2 août contre les Astros de Houston. À ça, on inclut le vol, l'hébergement et 500$ en argent. Chaque fois que tu entends une toune de Linkin Park sur les ondes de boulevard, ben tu dois aller inscrire l'heure directement sur le site blvd.fm. C'est 3 participations par jour qui sont permises et il y a un finaliste qui va être nommé chaque jour dans Gravel dans le retour. Un gros merci à Nokian Tires et Dernay Pneus et Mécaniques.
Les auditeurs qui nous écrivent en ce moment, c'est-tu une petite toune de Linkin Park qui nous attend à suivre?
Je pense pas.
Non, ça ressemble pas ça.
Ça ressemble au coloc.
Si mettons on était dans Fureur, on dirait bon lieu.
Ben oui, exact. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Les colocs, bon lieu sur Boulevard. Bon lieu de moyen de... On appelle ça s'informer, Pascal.
Ah oui? Oui. Regardez en série la même image d'une, je sais pas, c'est un plaqué dans bande là, que tu regardais. Là.
Ouais, Corey Perry qui s'est fait sortir par Goudos. Ben, je me demandais si c'était un coup de coude ou un coup d'épaule.
Et puis?
Un coup d'épaule à la tête, okay. Ce qui est techniquement interdit.
OK. As-tu été puni pour ça?
Oui, oui, oui. Ça, ben, j'imagine.
OK. Tu regardais ça en boucle. C'est de l'information.
On appelle ça un journaliste d'enquête.
Oui, oui.
Parlant de nouvelles, cher ami, y a-tu des trucs qui valent la peine d'être mentionnés?
Bien, dans les dernières minutes, ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est un texte que la presse a publié. Je te dis pas parce que cette nouvelle-là est nouvelle. Je te dis qu'il y a de l'avancée dans la tragédie de la garderie de Laval. Et bien, on a entendu des parents, en fait, qui ont perdu leurs enfants au palais de justice. Entre autres, un témoignage qui est quand même extrêmement triste de Mélanie Goulet. En sortant de la salle d'audience, elle a répondu à quelques questions des médias et ce qu'elle a dit, c'est que lui, il a des droits et ses droits, c'est d'avoir des soins à vie, pas nous. C'est la mère d'un enfant blessé, en fait, qui s'est confiée. Elle dit, on dirait que c'est un processus qui est inversé. Clairement, les émotions sont dans le piton au palais de justice aujourd'hui dans cette cause-là que l'on suit de Pierre-Ny Saint-Amand qui est accusé d'avoir tué et blessé des enfants en fonçant dans une garderie à bord d'un autobus. Rappelez-vous, c'est à Laval. On en parle depuis plusieurs heures maintenant parce que le procès ouvrait hier. On trouve qu'il y a beaucoup d'injustice. Les parents qui sont sur place et qui s'adressent aux médias parlent d'injustice pour que tout soit mis en place pour la guérison de l'accusé quand il y a des victimes du drame qui n'ont même pas cette chance-là d'être accompagnées, en fait, même psychologiquement pour la suite des choses. Et il parle de l'aide. Tu sais, l'aide, est-ce qu'elle est suffisante envers les victimes de ce type de drame-là, peu importe lesquelles?
Non, puis j'ai probablement que Maître Bellemare va se pencher sur ce cas-là parce que c'est un homme qui aide souvent les parents de victimes de ce style-là. Ils vont être référés à l'IVAC. Puis je me souviens d'un cas en particulier que je pense que je t'en avais déjà jasé. Une dame qui est en train d'écouter « Salut, bonjour » à TVA. Puis là, elle voit qu'il y a un drame. Bon, c'est le moment des nouvelles, là. Puis elle voit qu'il y a un drame qui est survenu à tel endroit. Puis elle dit, c'est bizarre, les enfants... ma fille est là, les enfants aussi. Puis elle a appris à salut bonjour que sa fille ainsi que les deux enfants étaient décédés. Hey. Puis elle a eu un gros choc émotif, ce qui fait en sorte qu'elle a demandé...